Bonjour, au sommaire de notre 99e numéro, un petit tour du côté des news avec des annonces concernant les dessins animés de chez Marvel, un personnage qui fait son retour chez Valiant, on va parler aussi un petit peu de voitures, et on passera ensuite au review avec Batman numéro 10 qui est une des grosses lectures de la semaine. On continuera chez DC avec Green Lantern qui termine son arc, on ira faire un petit tour du côté de chez Dark Horse avec la nouvelle série de Brian Wood, on regardera aussi ce qui est sorti chez Marvel avec la fin de l'arc de Spider-Man, le début de Spider-Man, entre autres. Et vous aurez aussi un coin du libraire présenté par Damien d'Astro City. Je suis Steve, vous écoutez Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Sam.
Bonjour.
Avec nous aussi cette semaine, Kinghead.
Oui, bonjour à tous, et allez les bleus, 2-0 pour la France pour l'instant.
Et on finit en beauté, hein, Mister Money Money.
Ouais, bonsoir les gens, bonjour, bonne matinée, bon réveil, selon l'heure d'écoute. Et j'étais en train de me dire que King Head, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, ça veut dire aussi tête de roi.
Ça c'est de l'autre matière. Nous sommes vendredi 15 juin, il est exactement 20h30. Si vous entendez crier, c'est que Kinghead, qui suit le foot en même temps, vient de voir un but.
Ouais, il reste plus qu'un quart d'heure, donc ça va, c'est pas grave. Mais pour l'instant on mène en plus, donc ça va, c'est bon.
Et oui, concilier deux passions, football et Comic City, c'est difficile. On va essayer de faire un épisode un peu plus court que celui de la semaine dernière qui faisait 2 heures, hein. Tout simplement parce qu'on aura un show assez long la semaine prochaine, puisque rappelez-vous, c'est le direct la semaine prochaine, le 100e. Donc on va commencer tout de suite par les news. Cette semaine, on a appris quelques nouveaux projets de Marvel pour les prochains dessins animés, en renforcement de sa gamme qu'ils ont commencé avec Ultimate Spider-Man. D'ailleurs, Bendis s'est exprimé au sujet d'Ultimate Spider-Man, puisque pas mal de critiques ont afflué ces derniers temps, et il a bien précisé que c'est pour enfants. Hein, la gamme Ultimate, enfin en tout cas le dessin animé Ultimate Spider-Man est pour enfants. Alors je sais pas si l'un de vous en a vu.
Oh. Non, moi, ça me tentait pas du tout.
Ouais, moi non plus, ouais.
Alors, j'ai regardé les deux premiers épisodes puisqu'ils ont été diffusés en France sur Disney XD. Merci Benny de m'avoir précisé ça la semaine dernière. Je savais pas du tout qu'ils avaient commencé la diffusion en France. J'ai pu les rattraper grâce au replay. Le premier épisode est pas mal. C'est sympathique. Il y a un humour. Oui, c'est vraiment destiné à des gamins, mais il y a un petit humour sympathique. Par contre, au deuxième épisode, c'était vraiment à chier.
Ah oui, carrément.
C'était vraiment pas bon. Il y a rien de logique. Tout est ridicule.
Enfin, ça n'a rien à voir avec la série des années 90, quoi.
Ah non, rien à voir. Spider-Man va travailler pour le Shield, il a déjà ses pouvoirs, on ne revoit pas son origine, enfin il nous la raconte vite fait, il passe d'ailleurs son temps à casser le quatrième mur et à s'adresser directement aux téléspectateurs.
Ouais, c'est un petit peu problématique ça déjà.
Ce qui me gêne par contre, c'est qu'on a de très bons scénaristes, puisque on a des gens comme Paul Dini qui travaille sur la série, qui a écrit d'ailleurs le deuxième épisode et je ne comprends pas comment il a pu écrire un truc aussi pourri. On a
des gens comme Steven Seagal, Marvel.
On a Joe Kelly qui travaille sur le titre, on a Jeff Lobb bien sûr.
Non, mais ça explique tout alors.
C'est pour les enfants, le problème c'est que le premier épisode est très sympa, le deuxième est très mauvais, donc je regarderai la suite pour voir quand ça passera sur Disney XD, mais bon, franchement...
Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est surtout pour vendre encore des figurines, quoi, des toys. Et,
je vois pas trop l'intérêt de le modifier autant, étant donné que la série comics s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, hein, tout le monde peut la lire, c'est super accessible, donc pourquoi faire autant de changements?
Parce que là, il n'y aura pas de trucs noirs, et puis le Spider-Man est plus jeune, et puis quand je dis de trucs noirs, je parle de scénario noir, hein, pas de personnage.
C'est sympa, Steve. Non, mais merci, c'est très bien.
Mais je me suis rendu compte que ça pouvait être mal interprété, ce que je dis.
Ça n'a rien à voir avec l'univers Ultimate. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Et puis, si j'ai bien compris, il y a aussi l'agent Coulson qui est dans
Ultimate. Oui, l'agent Coulson qui, à la fin du deuxième épisode, a fait dégager le proviseur et est devenu le proviseur du lycée de Peter Parker.
Oui, et puis bien compris, c'est Stan Lee qui est le balayeur, donc c'est vraiment les trucs pour
Stan
les
Lee est le concierge du lycée, et alors, chose très drôle qui va, je pense, faire bondir Benny, si c'était pas déjà fait. Un lapin qui bondit, c'était une petite vanne en plus, hein. Vous
voyez, oui, je bondis là. Ouh, je bondis sur mon siège.
Il y a de l'humour aujourd'hui, dis donc. Mary Jane fait des photos pour le Buggle.
Oui, alors. Je vais pas si elle veut.
Elle est journaliste pour le Bugle.
Voilà. Ah non, d'accord, oui, non, j'ai pas compris. Ah d'accord. Non, parce que je pensais que c'était, si tu veux, le Bugle qui prenait des photos de Mary Jane.
Non.
Genre, elle posait pour le Bugle.
Non, elle fait des photos, elle est journaliste en fait. Elle essaye de travailler au Bugle.
D'accord. Oui, au fait, ils font un peu n'importe quoi, au fait.
Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Bon, je sais pas, je regarderai le troisième épisode et puis je verrai après si la série reste plutôt du côté du premier ou penche plutôt du côté du deuxième. Bref, tout cet aparté pour dire qu'il va y avoir d'autres séries de ce type-là. Nous allons avoir Hulk and the Agents of Smash. Smash étant un acronyme.
Oui, bien sûr.
Et donc, on retrouvera Hulk, bien sûr, mais accompagné de tous ses potes, à savoir le Red Hulk, A-Bomb, Scar et She-Hulk, et peut-être même Lyra, je crois, j'avais vu passer aussi.
Et ils vont chanter comme Dora l'exploratrice, je pense.
Donc on s'inspire complètement de ce qu'a fait Greg Pak pour en faire une série pour enfants.
Putain.
Voilà. Et vous le savez, la série Avengers Earth Mightiest Heroes s'est arrêtée. Eh bien, on nous parle de relancer une série Avengers qui devrait vraisemblablement s'appeler Avengers Assemble, qui reprendrait les personnages, comme par hasard, du film.
Oh !
Quelle coïncidence.
D'après ce que j'ai compris, ce serait la série qui serait un peu plus, qui s'adresserait un peu plus aux adultes. Alors que les deux autres sont clairement pour les enfants. Avengers Assemble, ce serait un peu la continuité du film et
oui,
avec peut-être des thèmes un peu plus comme une justice, quoi. Mais
je pense que s'adresser pour les adultes chez Marvel, ça veut dire s'adresser aux gens de 15 ans.
Ouais, c'est ça le problème.
C'est un peu ça le problème. Bon, on verra ce que ça va donner, quoi. Bon, tout cet aparté sur Marvel était un petit peu long. C'était pas prévu d'en faire autant, mais bon.
Mais bon, c'est comme d'habitude. Et moi, justement, je me permets de dire un truc à propos du film Avengers. Juste, j'ai vu que Hot Toys, tu sais, les fabricants de figurines de luxe, un petit peu, hein, les figurines qui coûtent facilement près de 200 euros,
oui,
vont faire... Pardon ?
Des poupées gonflables, en fait.
Mais c'est le cas de le dire, puisqu'ils vont faire la figurine... Enfin, j'ai déjà vu les photos de Black Widow, de Scarlett Johansson, en figurine Hot Toys, et franchement... Ça vaut son prix, je pense.
Ah, mais en fait, je disais ça totalement au hasard. Et...
Bah oui, non, mais voilà, faudra que les gens cherchent sur Google simplement en tapant Black Widow, Scarlett Johansson, et pas Black Window, si possible. voilà, Hot Toys et vous allez voir, c'est criant de vérité, quoi. C'est impressionnant. On a l'impression que c'est l'actrice qui est en train de poser, alors que c'est une figurine.
On va continuer les news avec le retour d'un personnage chez Valiant. Dans le deuxième arc de Exo Manowar, donc à partir du numéro 5, nous aurons le retour de Ninjak, un des personnages de chez Valiant, qui va être réintroduit comme ça. Donc Valiant, ça vous parle vachement, j'ai l'impression.
Ouais, et Ninjak aussi, quoi. Moi, ça me fait penser simplement au générique des Tortues Ninja, parce qu'on comprenait rien au générique, puis on a l'impression qu'à un moment, ils disaient Ninjak, mais bon, c'est tout.
Ou ça a peut-être un lien avec Kojak.
Oh putain.
Bah alors Steve, est-ce que c'est un lien avec Kojak?
Non mais pas du tout, c'est un ninja. Connaissais-tu Valiant, Sam?
De nom uniquement, mais j'ai jamais lu un de leurs titres.
Ok, donc bah voilà, il sera introduit dans le deuxième arc, donc encore une fois un autre personnage de cette franchise Valiant qui revient. Je vais continuer avec un petit peu d'insolite avant de te céder la main, Kinghead, pour la vague d'essai. Ce week-end, pour les fans de sport motorisé américain, donc, on dit la NASCAR.
Ouais.
Dale Earnhardt Jr., qui court chez Hendrick Motorsport, va conduire une voiture aux couleurs de Dark Knight Rises.
Ah. Ben, j'espère que ça va pas être, comme dans le film, un plantage avec sa voiture.
Bah, est-ce qu'il se plante en voiture dans Dark Knight Rises?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme c'est la chute de Batman, enfin, c'est censé être la chute de Batman, j'espère que la voiture va pas finir dans une benne.
il a fait quelques essais sur son circuit privé hein, cette semaine, puisque bon, Dale Earnhardt est quelqu'un de très connu. Hein, je pense que vous ne connaissez pas du tout la NASCAR, donc voilà, vous savez pas du tout qui c'est, mais c'est quelqu'un de très connu dans le milieu, et donc il a un circuit privé. Et il a roulé avec sa voiture, il l'a montré à la presse comme ça et à quelques fans, et il avait aussi la Batmobile qui était là.
D'accord, donc la Batmobile récente, quoi.
Oui, la celle de Damien Nolan. Ouais.
Le tank, quoi.
C'est ça.
Ce qu'on appelle une Batmobile, mais qui fait plus penser à un truc des G.I. Joe, quoi. D'accord.
Le Tumblr. Non, il appelle ça le Tumblr.
Ouais. Donc, ce qui serait top, ce serait que le Tumblr soit le pace car de cette course, mais je pense pas. Donc, c'est la course du Michigan, hein, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à aller voir quelques petites photos. La voiture est très sympathique. C'est à toi, Kinghead, pour les rumeurs.
On nous a annoncé une vague de décès de série chez DC Comics. Donc Oui, une de décès de série, des séries qui vont mourir.
Ah oui, d'accord.
Ok, d'accord. Et donc en septembre, on va dire bye bye à Resurrection Man, ce qui est assez dommage. C'était une série qui était pas trop mal. On dit bye bye aussi à Voodoo, Captain Atom et donc à Justice League International, dont on le savait déjà. Pour Voodoo, je trouve ça aussi assez dommage. Captain Atom, là je dis ouf parce que bon, c'était pas terrible, terrible.
Moi présent. Perso, je t'avouerais qu'à part Justice League International, mais ça tout le monde le sait, et Resurrection Man, les deux autres, j'en ai rien à péter quoi.
Ils
peuvent disparaître dans les limbes. Voodoo et Captain Atom.
Voodoo, c'était pas mal. Moi, j'ai suivi les Voodoo pour l'instant et je trouve que c'était assez sympa. Mais
ça recommence.
donc voilà. Et puis sinon, des rumeurs sur la prochaine vague qui sera dans quelques temps encore, la quatrième vague peut-être. Avec, on entend parler peut-être du retour de la série Wildstorm avec Jim Lee aux manettes.
Ou la série Wildcats.
Pardon, Wildcats.
Oui, parce qui était publié chez Wildstorm, oui, effectivement.
Voilà, c'est ça. Ouais, mais on s'y perd un petit peu. Donc, avec Jim Lee, on sait qu'il ne continuera pas sur Justice League à la fin du prochain arc, je crois. Et donc, peut-être que son prochain projet, ce sera le retour de Wildcats. Et il y a des rumeurs aussi...
Il avait annoncé qu'il allait partir pour un autre gros projet, qui n'a pas été révélé. Mais tu nous disais, juste avant qu'on enregistre, qu'à l'époque, il avait dit que s'il quittait, ce serait uniquement pour refaire Wildcats.
Voilà, c'est ça. Donc bon, on verra bien.
Fond 2.
Et il y a des rumeurs aussi comme quoi il y aurait peut-être une autre série qui serait sur la Justice League. Ça avait déjà été teasé dans un ancien épisode de Justice League où on voyait Steve Trevor qui voulait faire une sorte d'autre équipe, un petit peu Black Ops, avec ouais. Peut-être Green Arrow, peut-être que ce serait sur ça.
Mais bon, ça expliquerait aussi peut-être pas mal de personnages que l'on voit dans le Free Comic Book Day. Notamment ouais. Des gens comme Element Woman, etc., qui pour le moment qui ont l'air de faire partie d'une équipe, mais que pour le moment on ne voit pas.
Voilà, ce sera peut-être les Justice League Backups qui seront dans une prochaine vague de titres, mais bon, ça reste des rumeurs pour l'instant.
Bah, de toute façon, déjà la vague 3 débarque en septembre ou octobre, ça dépend à partir de quoi on compte. Non, parce que finalement, le problème c'est qu'en septembre il n'y aura pas 52 titres, il y en aura 56.
Ouais, ce qui est pas mal, ouais.
Et
ouais.
Oui. Puisque les numéros zéro. Autre petit souci, puisqu'on parle des titres zéro, qui a été révélé dans les news hein, que Corwin nous a posté aujourd'hui, le design de la cover de Catwoman, qui apparemment fait un petit peu débat, étant donné qu'elle est dans des poses assez étranges et un petit peu anatomiquement pas normales.
Ah, donc peut-être j'ai pas vu ça. Je vais voir ça tout de suite, alors.
Peut-être que la cover sera redesignée.
Ouais, faudra que je regarde. Et sinon, les gens, on en avait pas parlé la semaine dernière, mais le numéro 0 de Green Lantern, justement, va consister à présenter ce fameux Green Lantern qu'on voyait dans le Free Comic Book Day. Donc, je pense que ce sera intéressant. Je m'attendais à pas à ce qu'on en sache autant sur lui si tôt, mais...
De même que le numéro 0 de DC Comics Presents va être divisé en plusieurs chapitres et portera sur les personnages qui ont été qui font partie de l'ancienne vague qui ont été annulés, en fait.
Ouais, avec Omak, Black Hawks et compagnie. Donc ça pourrait être sympa. Mais en fait, quand on lit les sollicitations de tous ces numéros zéro, on se rend compte qu'ils ont l'air tous très intéressants, parce qu'on va avoir pas mal d'origines, genre les origines de Jason Todd, les origines de Tim Drake et toutes ces choses un petit peu pour voir la différence avec ce qui se passait avant les New 52.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant tout ça, d'avoir au moins la timeline.
On va être clair, DC nous fait franchement chier parce que tous les mois de septembre, ils nous obligent à acheter tous leurs numéros. On peut pas prendre de vacances, on est obligé d'économiser toutes les vacances là. Ouais, ça fait deux années de suite qu'ils nous obligent à prendre tous les numéros, hein.
Ça donne très envie tous ces numéros zéro.
Et puis il y a aussi Talon, donc on va peut-être parler tout à l'heure.
Oui.
Ouais.
Bah de toute façon, je crois qu'on va même commencer à en parler tout de suite. Étant
et
donné
non,
que...
et non, et non, mais on a pas fait les news Marvel concernant les nouvelles équipes créatives.
Ah mais oui, je l'ai oublié. Hein.
Et je peux les faire si vous voulez. Donc très vite, il y a des rumeurs comme quoi toutes les équipes vont changer d'ici septembre. Des rumeurs qui vont sans doute se confirmer hein, dans les prochains jours de toute façon, puisque c'est Reed Johnson de Bleeding Cool qui en parle. En bref, on a sur Avengers, Jonathan Hickman et Essad Ribic qui arrivent dessus.
Donc l'équipe de The Ultimates.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Sam, reliras-tu les Avengers?
Oui, du coup, oui. Ça fait un moment que j'ai arrêté là de...
Bah voilà. Donc Astonishing Avengers, nouvelle série Avengers par Rick Remender et Jérôme Opena, donc encore une fois une équipe quand même qui envoie quoi, du lourd.
M'étonnerait pas qu'en fait que ce soit ce qui remplace Secret Avengers. Que Secret Avengers s'arrête en fait et que ce soit remplacé par Astonishing Avengers puisque Rick Remender est déjà sur Secret.
C'est bien possible. Alors par contre, Avengers Assemble, lui, resterait avec Mark Waid au scénario.
Bah,
de ça, ça donne envie.
Ça donne envie déjà, premièrement, parce que Mark Waid, et puis deuxièmement, ils vont pas arrêter Avengers Assemble, étant donné qu'il y a le dessin animé qui va sortir et qui porte ce nom. Ce serait une erreur stratégique pour eux.
Ensuite, nous avons aussi la rumeur de Matt Fraction et Salvador Larroca qui arrivent sur Fantastic Four.
Non. Alors ce n'est pas King Ed qui vient de voir qu'on prend un but, hein, c'est juste Sam qui pleure.
Oui, on aurait pu comprendre.
Oui, parce que là, le match est fini, la France a gagné. Ouais.
C'est donc l'anarchie dans ce podcast.
Donc tu as la Gaule. Et sinon oui, justement sur Iron Man, ce serait Kieron Gillen et Greg Land. Bah on verra ce que ça va donner. Et enfin, le gros truc la grosse rumeur, c'est peut-être bien Bendis qui arriverait donc à la fois sur X-Men et Uncanny X-Men.
D'accord, où est mon flingue là?
Non, moi je pense que Bendis sur les X-Men c'est une très bonne chose, ça pourra peut-être redynamiser un petit peu les X-Men et voir Bendis faire autre chose.
Ça fait 2 ans que je souhaite que ça arrive, quoi.
Ben oui, oui, non, mais on en avait déjà parlé dans les podcasts.
Ça n'arrive pas.
On avait déjà parlé ensemble dans les podcasts.
C'est étonnant par contre parce qu'ils venaient juste d'annoncer Brian Wood sur Uncanny X-Men.
Non, sur X-Men.
Ah, sur X-Men, bah il va peut-être que Bendis il sera sur Uncanny et Wood il va rester sur X-Men parce que sinon ça ferait un tout petit passage de Brian.
Vous savez ce qui est étonnant? C'est qu'on n'a toujours pas eu le Tron War. Et que j'ai bien peur qu'on ne l'ait jamais.
Non, bah si,
donc,
bah.
Et Tron War.
AVX, mine de rien, se termine quand? En juillet, non?
Ah non, AVX se termine en novembre.
Non, c'est septembre.
Bizarre. Bah alors, je ne sais pas. Et de toute façon, je pense qu'il est là jusqu'en décembre.
Oui, il est là jusqu'à la fin de l'année.
Bon, on verra comment ça se goupille, tout ça. C'est assez bizarre.
Alors bon.
Donc au final, pas de reboot, c'est juste une redistribution des cartes en fait.
Mais au fait, c'est un reboot non dit quoi, non
oui,
assumé.
C'est clair. Voilà. De toute façon, puisque ça va l'être dans les prochains jours, on peut l'annoncer ici tout de suite. Tout est vrai.
Voilà. Oui, bah oui.
Enfin, on sera les premiers en France à le dire. Tout est vrai. Vous verrez dans les prochains jours quand ce sera confirmé. Nous, on peut déjà vous dire d'ores et déjà que c'est vrai.
Oui, enfin de toute façon, voilà. Là, vu comment c'est.
Il y a des trucs qu'on sait depuis 6 mois, hein. Franchement, faut arrêter de...
Il y a des choses aussi qu'on a su de sources sûres et qu'on peut confirmer. Voilà, il y en a d'autres, on va pas les révéler maintenant, mais voilà.
Non mais attends, quand Hickman, il y a 3-4 mois, dit « j'arrête FF et les Fantastic Four parce qu'on m'a fait une offre que je peux pas refuser », voilà, il y a pas énormément de titres au-dessus, quoi. Il y a soit les X-Men, soit les Vengeurs, donc...
Non mais moi Bendy sur les X-Men, je suis preneur, j'attends de voir, puisque il était plus capable de se renouveler sur les Avengers. Mm. Bon là il va pas nous les opposer au Wrecking Crew, à The Hood ou à Norman Osborn, enfin j'espère pas, oui, ni aux Dark Avengers. Donc il va forcément nous faire quelque chose de neuf, qu'il répétera dans 2 ans c'est sûr, mais au moins pendant peut-être 1 ou 2 ans on aura quelque chose de neuf, donc c'est plutôt avantageux. Donc après toutes ces nouvelles, on va passer maintenant au review de la semaine et on va commencer par la grosse sortie, celle qui risque de faire parler d'elle pendant encore un petit moment. C'est la sortie du Batman numéro 10. Au scénario, nous avons Scott Snyder, bien sûr, Greg Capullo est au dessin, Jonathan Glapion à l'ancrage, et c'est Batman qui décide d'aller péter la gueule au Talon.
Alors, juste un truc, est-ce que vous avez compris quel est le rôle exact du Talon, quel est leur but?
Non, mais c'est des hommes de main du Court of Owls, c'est tout.
Non, enfin je veux dire le Court of Owls, quoi. Quel est leur but concret?
Diriger la ville en secret.
Mmh. Oui, c'est ça.
C'est avoir c'est une organisation sur la secrète ville. Qui a la main mise sur la ville et qui décide de faire ce qu'elle veut de la ville.
Ouais.
Bah c'est un truc la société secrète classique, quoi. Mmh.
Mais alors voilà, enfin moi ce qui me dérange, bon alors ok c'est un relaunch, c'est qu'on en a jamais entendu parler. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un truc qui arrive comme ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe.
En même temps, on avait ces discussions hier. Tu avais soulevé un point d'ailleurs.
Un point, oui, oui.
Il faudra que tu reparles, qui est assez intéressant. Je te laisserai en parler juste après. C'est un relaunch, donc Batman est censé avoir 6-7 ans d'existence peut-être en termes de carrière de super-héros, puisque on sait qu'ils sont tous à peu près apparus il y a un ou deux ans avant de se mettre ensemble dans la Justice League, qui était il y a 5 ans.
Ouais.
Donc on peut se permettre d'ajouter des nouvelles choses. Comme dans cet épisode. Pour moi, ça me paraît pas out of character. Si on vous avait annoncé ça dans le Detective Comics 950, ça paraissait un petit peu gros, quoi. Depuis tout ce temps, ils avaient pas bougé, ils avaient pas décidé d'arrêter Batman.
Oui, enfin, en même temps, tu peux te dire que bon bah voilà, c'est maintenant le changement, c'est maintenant. Et donc non, mais je sais pas, qu'il y a un truc qui fait que il fallait qu'il le fasse maintenant et qu'avant c'était pas possible pour X raisons. Bon, après, il faudra que ce soit expliqué, mais
En même temps, je trouve que ce qui est assez bien expliqué dans le comics, c'est que Bruce Wayne est un peu dans la même situation que toi, à savoir qu'il s'en veut de pas s'en être rendu compte depuis tout ce temps, quoi. Et donc ça
oui,
peut
non, ce que je veux
expliquer.
dire, ce qui est moins logique, c'est le fait que la Court of Owls, eux, n'aient pas fait quoi que ce soit avant là, maintenant.
Non, mais
Ouais, c'est
en
parce
fait,
qu'en fait.
c'est expliqué qu'ils interviennent à cause du projet de Bruce Wayne de remodeler entièrement Gotham City.
Oui, ça, c'est
Qui
vrai que
est dans le premier épisode.
c'est vrai que ça prendrait sens.
Ça remonte à 10 mois, il faut s'en rappeler en fait.
Voilà,
Oui,
c'est dans le
c'est
premier
vrai.
épisode.
Mais toi tu as relu la version urbaine pour t'en rappeler comme ça.
Bah oui, il y a pas longtemps puisque
C'est pour ça, oui, parce que moi je l'ai pas
4
encore
semaines
relu.
donc oui ça.
Je l'ai pas relu, donc c'est pour ça que j'ai pas relu les premiers épisodes depuis depuis 10 mois finalement.
Ça m'a juste confirmé que Detective Comics c'était vraiment de la merde. Hein. Faut qu'il arrête. Hein.
Detective Comics avec
Tony
le
Daniel.
truc qu'il a fait avant?
Non, de Tony Daniel.
Ah, pardon. Oui, d'accord. Ok. Tu m'as fait peur. Non, mais justement, hier, je
Tu
disais à
avais
Steve.
soulevé un point, voilà, c'est ça. Je voulais que tu reviennes dessus, sur ce
Voilà.
point qui était
Au
intéressant.
début, tout au début, sur la première page, on te montre donc un building de la Court of Owls en te disant que voilà, ça a été un building qui demeure inviolé depuis des années. Personne n'y a pénétré. Il est là dans Gotham. Il a pas bougé. Le truc, c'est qu'il y a eu quand même toute la saga No Man's Land, avec un énorme tremblement de terre et normalement tout ce qui s'est cassé la gueule. Alors sauf si effectivement on te dit oui comme par hasard c'était le seul building qui a pas bougé, qui restait en place, etc. Ok, mais bon ça semble assez bizarre quoi.
Bah, ça veut dire que, tout simplement que No Man's Land n'a pas eu lieu. No Man's Land, pardon.
Ouais, peut-être
Ou
que
alors
effectivement.
il a eu lieu, mais ça s'est passé différemment, à savoir que peut-être que c'est juste Bloodhaven qui a été détruit ou un truc comme ça. Ça a pu très bien se passer, mais d'une façon différente. Parce qu'ils ont déjà évoqué, je crois, dans les New 52, le fait qu'il y avait déjà eu des destructions dans Gotham à la suite de tremblements de terre.
Bah, on en revient au même problème, hein. Ce manque de timeline.
Oui, et puis le fait que effectivement, comme tu dis, en 7 ans, de toute façon, il y a quand même eu là on va aller compter les Robins dans Batman and Robin, justement, on va en parler, mais il y en a quand même eu un bon paquet qui ont vécu beaucoup de choses, et on se demande comment c'est possible, quoi.
Bah, un ou deux criminels par soir, hein. Ça fait beaucoup d'aventures.
Ouais, mais c'est au fait c'est le problème de la comment dire du renouvellement aussi des Robins, quoi. C'est-à-dire que quasiment tous les 2 ans ils ont changé.
Oui, il change le modèle.
Batman est insatiable.
Il faut le modèle plus
Il aime
jeune.
la chair fraîche, Batman.
Ils nous en ont quand même enlevé quelques-uns. On a quand même Stephanie Brown qui a disparu, donc.
Bah, on en parlera tout à l'heure au moment de la review de Batman et Robin quand même, parce que là c'est vrai qu'on risque de déborder puis de partir dans tous les sens. Donc on va continuer sur ce Batman 10 quand même, puisqu'il va apporter une révélation majeure sur le passé de la famille Wayne,
Ouais.
qui va faire date. Pour moi, Snyder a les couilles de faire ce que Morrison n'a pas osé faire.
Ouais, pas exactement, parce que Morrison, il a quand même, il est parti sur le père de Bruce. Là, il nous parle de la famille de Bruce Wayne, mais c'est différent et puis c'est plus simple, on va dire, d'attaquer sous cet angle-là. On peut pas dire ce que c'est, mais
Enfin,
bon.
on va pas révéler, oui, c'est sûr, mais
En même temps, j'ai envie de dire, c'est quand même la ficelle scénaristique super classique, quand même, dans toute la science-fiction, les séries, etc. C'est ah, c'était toi!
c'est vrai que c'est assez classique, mais par contre, je trouve que c'est très bien amené au niveau
Ah oui.
du scénario, avec les indices qui sont distillés dans chacun des numéros. Ça invite à revenir dans les numéros précédents pour voir si ah oui, est-ce qu'il y avait vraiment eu ce détail qui avait été mis en évidence et
C'est surtout que là, c'est un numéro très verbeux, beaucoup de dialogues. Franchement, la scène finale, elle se lit en une dizaine de minutes, je pense.
Bah tant mieux au moins, on tourne pas les pages comme un Conan, quoi.
Exactement. Non, non, mais justement, c'est très très bon à ce niveau-là. Par contre, moi, au fait, je vais vous dire qui je pensais être le chef de la cour des hiboux, là. Je pensais que c'était le fameux Ducard, là, dont il parle tout le temps.
Ah oui.
Bah, le détective qui l'avait aidé, là.
Exactement. Je pensais que c'était lui, au fait, qui allait être le big boss au milieu de l'épisode. Je me suis dit que c'était peut-être ça, parce que il en parlait encore, et puis finalement, il le cite comme quelqu'un qui lui dit « Ouais, il faut que tu te rappelles de ce que t'as... » Enfin, je sais plus, de ce que t'as oublié, je sais plus. Enfin, il lui dit un truc comme ça, et je me suis dit « Tiens, ça tombe, c'est lui, quoi, qui a tout orchestré et qui est derrière tout ça. » Et c'est un petit peu son sombre reflet, l'inverse de Bruce. Enfin, bon. Je suis parti dans un délire, et au fait, c'est pas tout à fait ça.
Sam, qu'en as-tu pensé, parce qu'on t'a pas trop entendu sur le sujet pour le moment?
Partagé. Je suis très partagé sur cet épisode. Le numéro est très bon, c'est sûr. Snyder et Capullo font un très bon boulot. Mais la révélation me semble un peu énorme. C'est, voilà, il y a des trucs un peu bizarres, je trouve. Donc on va voir dans le prochain épisode s'il lui donne un peu de contexte, puisqu'il y a le backup derrière qui apporte aussi des éléments.
Ouais. Et des notamment éléments le nom, je trouve ça génial. Le nom. Le nom, quoi.
Ouais.
J'ai trouvé ça génial.
Très bonne idée. Mais...
L'écriture est vraiment maligne. L'écriture est vraiment très maligne et
Mais voilà, je suis sorti de là, j'avais vraiment l'impression j'arrivais pas à savoir si j'aimais vraiment le truc ou si j'arrivais à y adhérer.
C'est à noter que le backup est scénarisé donc par Scott Snyder, mais aussi James Tynion IV, qu'on retrouvera sur la série Talon plus tard, et qu'au dessin, c'est Raphaël Albuquerque. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on peut pas en dire vraiment plus au risque de spoiler, donc on va s'arrêter là.
Mais attends, il y a juste un truc que je voudrais préciser, et ça c'est bien dommage, c'est que donc j'ai appris que le personnage principal de la série Talon ne sera pas ce personnage qu'on découvre dans cet épisode, quoi. C'est un peu dommage. J'aurais espéré, tu vois, que ce soit sur ce personnage-là, mais bon.
Ça aurait été trop dur. Ça aurait été trop dur d'imaginer la rédemption d'un Talon.
Ah, mais oui, non, mais pas forcément. Moi, j'imaginais que c'était pas forcément la rédemption, justement.
Ah, mais si, mais c'est ça. C'est, faut lire les sollicitations, c'est marqué dessus. En fait, c'est, il ouais, essayait de trouver sa place et essayait de trouver la rédemption, une certaine rédemption, en tout cas.
Ça, par contre, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Le pitch de Talon, mais...
Un petit peu comme Kane dans Scarlet Spider, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, bilan, messieurs. Un bail.
Bah, pour moi, c'est un bail et c'est un des numéros indispensables, vous voyez, à lire cette semaine. Sur la mythologie Batman, il y a des choses hyper importantes, quoi.
Bah moi, j'irais même plus loin. C'est peut-être le numéro du mois, hein, pour moi. Honnêtement, parce que des révélations comme ça, on en a pas tous les jours. Et en plus, c'est super bien écrit. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit quand on voit AVX à côté, des choses comme
non,
ça.
Non, mais quoi. Ne parlons pas des sujets qui fâchent.
Ouais. Surtout qu'on en a pas cette
pas
semaine.
Ce n'est pas écrit AVX.
Si, on en a un cette semaine.
Ah merde.
J'en parlerai tout à l'heure.
Oh mon dieu.
Sam, pour toi, un bail aussi?
Un bail aussi.
On est tous d'accord, 4 bails. Donc vous savez quoi acheter cette semaine d'urgence.
On va rester chez DC et je vais vous parler de Batman et Robin numéro 10. Toujours Peter Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin. Début d'un nouvel arc, a priori un arc en 3 parties, qui voit en parallèle l'apparition d'un nouvel ennemi qui s'appelle Terminus. Et également la quête un peu de Damian pour prouver qu'il est le meilleur des Robins. Donc ça, c'est la partie qui m'a le plus plu, parce qu'en fait, on se retrouve avec une réunion entre les Robins, tous les anciens Robins qui se retrouvent avec Bruce. Et Damian, en fait, tout simplement leur dit qu'il est le meilleur et qu'il va leur prouver, justement en les attaquant dans leurs points faibles. Et premier numéro, ça s'intéresse à une opposition entre justement Damian et Red Robin, donc Tim Drake. Et c'est vraiment très sympa parce que c'est un parallèle direct avec le Batman 657 de Morrison qui avait fait l'apparition de Damian justement dans la continuité Batman. Et j'ai trouvé que c'était bien écrit, le personnage de Damian est vraiment intéressant. Bon, j'aime toujours autant les dessins de Patrick Gleason. C'est vraiment une série, moi, qui me plaît beaucoup et c'était peut-être ma lecture préférée de la semaine, moi, personnellement.
D'accord. Bah, moi, j'ai un autre avis sur là-dessus. Je trouve que les dessins, déjà, bof. Honnêtement, je suis de moins en moins fan. Quasiment. Mais par contre, ouais, le scénario, j'en ai un peu marre de Damian. J'ai l'impression que chaque histoire écrite par
Tomasi.
Par Tomasi, oui, voilà, c'est toujours Damian opposé à quelqu'un de la Bat Family. Alors c'est Damian face à Bruce, ensuite c'est Damian face à Tim Drake, ensuite c'est Damian face à Dick Grayson, etc., etc. Et dans chaque épisode, c'est Damian qui fait son show et qui fait sa sale tête de mule. Et puis bon. Et puis les histoires n'avancent pas tellement, quoi. Et moi justement, ouais, j'ai bien aimé cette galerie de nouveaux méchants qui ont tous été esquintés par Batman. Et je les ai trouvés vachement drôles, moi, ces méchants-là.
Ouais, c'est vrai, c'est assez sympa. Mais ce que j'ai bien aimé, moi, c'est dans l'écriture, c'est qu'en fait, ça fait référence à énormément de choses, à d'autres séries dans les New 52, et on voit qu'ils sont bien concertés. Ça fait référence à des événements dans Teen Titans, ça fait référence à des vieux... L'apparition de Damian, par exemple, on sait que ça s'est vraiment passé de la même façon qu'avant la New 52. Donc, il y a vraiment des choses qui sont... J'ai trouvé que l'écriture était bien, et il me tarde de voir maintenant la confrontation entre Damian et Red Hood, par exemple, ou avec Nightwing, ça pourrait être sympa, mais bon.
Faut pas oublier que Tomasi est quelqu'un qui aime gérer de multiples personnages et qui s'attarde énormément sur les relations, en fait. Et c'est vraiment le point fort de Tomasi, s'attarder sur les relations entre les personnages. Et jusqu'à présent, dans Batman et Robin, il l'a plutôt bien réussi.
Ouais, mais c'est peut-être surtout que Batman et Robin, c'est vraiment le titre de Damian, et comme Damian, c'est quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup de mal, j'accroche peut-être pas autant que toi, Kinghead.
Moi je l'ai pas lu, hein, donc je donnais juste mon avis sur Tomasi. Hein.
Ouais.
Tu l'avais lu toi, Sam?
Mais oui, je l'ai lu, effectivement, c'est très bon. Surtout, Tomasi arrive à bien écrire Damian, ce qui est pas évident. Je m'en suis rendu compte au moment où Morrison écrivait le personnage, il apparaissait dans d'autres séries, et il avait pas du tout la même personnalité, pas du tout le même impact. Enfin, il avait le côté sale gosse, mais il lui a enlevé tout le génie, en fait, du personnage, parce que c'est quand même un gamin qui a été élevé par la Ligue des Assassins. Donc il a deux trois talents en ce qui concerne le combat ou la manière
la culture aussi.
Ouais, lui fait énorme, des talents de déduction, enfin, et ça apparaissait pas du tout dans les autres titres. Ça c'était un espèce de gros connard arrogant mais sans talent dès que c'était plus Morrison qui l'écrivait. Là on voit vraiment que Tomasi maîtrise bien le personnage. Alors sur le fait que Damian soit central dans la série, ben oui, parce que c'est Batman et Robin, donc et c'est lui le Robin en ce moment, donc c'est vrai qu'il a la personnalité, une espèce de personnalité assez dominante sur le reste. Non, moi j'ai adoré cet épisode aussi, hein, ça sans problème. Il y a eu quand même sur la série, je dirais les 4-5 premiers épisodes qui étaient assez mous, assez vides, assez creux. Puis là, à partir du 6, c'était vraiment monté en puissance. Et là, on sent que Tomasi, ça y est, il est en vitesse de croisière et il est parti.
Alors là, par contre, là, je trouve que c'est lent, quoi.
Bon, enfin, bon, ça m'a pas gêné parce que je trouvais que l'histoire avançait bien.
Ouais,
je suis d'accord avec Sam.
Ok, bah écoutez, moi non.
Non, mais surtout qu'il y avait du contenu par rapport à des épisodes de Batman, ou de Batman et Robin, où voilà, il se passait pratiquement rien entre le début et la fin.
Là, je trouve qu'il se passe pas grand chose, quoi, puisque c'est juste une confrontation qu'on aurait pu déjà voir depuis bien longtemps entre Damian et Red Robin, et puis point, quoi, c'est tout. Parce en plus, c'est une petite confrontation.
J'ai vraiment eu l'impression qu'il se passait des trucs.
Ils ont quand même aussi introduit de nouveaux méchants et tout. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent.
Oui, oui, ça, d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Ouais. Mais on les voit peu finalement, ces nouveaux méchants. Ouais. Bon, donc c'est pour ça que j'attends la suite avec impatience pour les voir un peu plus.
Donc perso, ouais, bye, sans hésiter.
Kinghead.
Bye aussi.
Et Benny.
Allez, petit bye. Voilà.
À la limite. Ah, tu donnes un sentiment de check-it hein, quand même. Hein.
Ah, à la limite du check-it là, honnêtement. Voilà, je trouve pas que c'était l'épisode du siècle non plus, quoi.
Ok.
Ben, on va chez Dark Horse Comics cette fois-ci pour The Massive, le nouveau créateur net de Brian Wood, décidé par Christian Donaldson. Donc encore une fois, on est plongé dans, je crois qu'ils appellent ça une uchronie. C'est un monde comme le nôtre, mais un peu différent. Donc en fait, c'est le monde après une année de cataclysme écologique sur toute la planète, qui a fait des millions de morts, qui a anéanti l'économie, enfin c'est vraiment
merci
le
Eva Jolie. Merci Eva Jolie.
Voilà. Fallait faire le boulot plus tôt, hein, Eva. Fallait faire plus de 2% aux élections. C'est ta faute tout ça.
Est-ce qu'on sait les causes de ce cataclysme?
Non, justement, en fait, il dénomme l'année, parce que ça, en fait, tous les événements se sont déroulés sur une année complète, et ça a commencé au début janvier, ça s'est arrêté en décembre.
D'accord. Est-ce quelle année, du coup?
Ils l'appellent, non, c'est pas dénommé, ils appellent ça le crash. Voilà, oui, parce d'accord. que c'est l'effondrement quasi total de la civilisation. Donc en fait, on suit l'équipage d'un bateau qui s'appelle le Capital.
Avec un K.
Ouais, avec un K. Toujours les petites références sociales de Wood, comme dans la plupart de ses titres, en fait.
Moi, ça me fait surtout penser à la télé, quoi, tu vois.
Ouais.
Bonsoir.
Sauf que Brian Wood n'a aucune chance de connaître Capital.
Ah bah oui, mais Zone Interdite, par contre, il l'a connu avec DMZ. Ouais.
Ça va être dur d'enchaîner, là.
Ouais.
Petite référence à la série. Ouais, moi je suis assez fier, là, de ma...
de ta vanne. Donc en fait, les membres de cet équipage faisaient partie d'un groupuscule écologique un peu radical, et ils avaient une flotte de bateaux, en fait, deux bateaux, le Capital et le Massive. Et en fait, le Massive est parti en mission et a disparu. Et en fait, les membres de cet équipage, donc de l'autre bateau, le Capital, partent à sa recherche un peu partout sur le globe. Et là, ils se retrouvent dans un coin très très cool qui est l'Arctique. Et ils se font attaquer par des pirates. Donc globalement, je dirais que c'est sympathique pour un premier épisode.
C'est la fin qui est peut-être qui pêche peut-être un peu, quoi.
Bah, le problème c'est que j'ai pas vraiment eu le sentiment qu'il y avait vraiment une fin. Ça, ça s'arrête un peu avant que l'histoire ait vraiment commencé.
Ouais. Je pensais que ça allait partir dans un trip
triangle. Voilà, moi aussi je me suis dit il va y avoir une dernière page qui va m'accrocher et tout. Non.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, les personnages sont sympathiques. Donc je trouve qu'on s'y attache assez vite. C'est vrai qu'on est intrigué par ce monde. Donc à voir peut-être au deuxième numéro pour avoir un peu plus d'infos, mais bon. Je reste sur ma fin.
Je n'ai pas exactement le même avis que toi. Alors, je vais pas en parler très longuement puisque vous entendrez tout à l'heure, j'en parle un petit peu avec Damien dans le coin du libraire, donc je vais éviter de me répéter. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont des personnages qui sont déjà... On en voit principalement trois, qui sont tous les trois très charismatiques. Bon, le quatrième, on le voit tellement peu que je le compte pas. On sent qu'il y a énormément de potentiel dans la série, puisque il y a ce cataclysme qui aura peut-être des explications ou peut-être pas, puisque finalement ce sont des causes naturelles. Donc y a-t-il besoin d'explications à des causes naturelles?
Bah, le problème c'est que ça arrive, c'est là vraiment le côté bizarre de certains de ces événements qui normalement
tu sais dans la enfin
il y a des trucs vraiment extrêmes, et puis c'est le fait que ce soit compressé sur une année.
Bah, dans l'histoire récente, on a quand même eu des catastrophes qui se sont succédées.
Oui, c'est vrai, mais je veux dire, pas sur toute la planète et pas tout en même temps, quoi, parce que
on a eu le tremblement de terre à Haïti, on avait eu le tsunami en Indonésie, on avait eu
on a eu Sam qui a rejoint Comic City.
on avait le Katrina, enfin on a eu beaucoup d'événements. Alors peut-être à moins de avec moins de force que présenté là dans The Massive, mais on a eu aussi des années quand même relativement difficiles au niveau du climat, donc je pense qu'il a simplement exagéré un petit peu le trait.
Non, moi j'avais senti qu'il y avait une idée derrière ça, qu'il avait un plan en fait derrière, et qu'il y avait une révélation derrière ça.
Peut-être qu'il y aura.
Moi je l'ai senti, hein, la lecture, c'est ce que j'ai senti.
Peut-être pas, je sais pas. On a ces trois personnages là, donc comme je dis, qui sont très charismatiques. On a le capitaine, son second qui est donc une femme un petit peu rentre dedans, et on va dire son numéro 3. Qui est en fait un personnage, ils sont tous connectés à divers degrés, on apprend ça tout au long de l'épisode, et puis surtout dans l'espèce de petit backup qui est la fiche de renseignement que détient le gouvernement américain sur le capitaine du bateau qui s'appelle Callum Israel, plus un nom qui porte tout de suite une certaine signification. Je sais pas, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette série, je suis vachement attiré, j'ai vraiment envie d'aller voir la suite. Pour moi, c'est un gros bail, puis c'est vraiment quelque chose de différent, quoi. Je vais me répéter un tout petit peu par rapport à ce que je dis, que vous entendrez un petit peu après dans le coin du libraire. C'est que Brian Moon nous a encore choisi un sujet relativement réaliste, tout à fait en phase avec l'actualité, mais qu'il a détourné de manière à ce que ce soit pas flagrant. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Mais oui, non, mais... Et moi aussi, j'ai senti le potentiel, mais j'ai pas accroché tant que ça au truc. Ça m'a pas assis par terre.
Par contre, j'ai trouvé que l'ambiance maritime était relativement bien réalisée. Je suis pas du tout quelqu'un qui est fan de tout ce côté bateau, mer, etc.
Et pourtant, tu as une bonne tête de marin quand même.
Pourtant, je suis quelqu'un qui vient de La Rochelle, donc voilà, le côté marin.
Le sel de mer, tu connais tout ça.
C'est, voilà. Moi aussi, je connais. Mes parents habitent à Biarritz, c'est tout. Moi aussi, je connais.
J'ai grandi avec ça, quoi, mais c'est pas un monde qui m'attire. Mais là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien représenté, pas cliché en fait. Il y a des petits détails comme le fait que le bateau vogue sous le drapeau, enfin sous le pavillon du Panama, qui est relativement laxiste avec sa façon d'attribuer les pavillons. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a une assez grosse critique sociale finalement, comme d'habitude avec Brian Wood, quoi. Donc pour moi, c'est un gros bail. Du coup, pour toi, Sam, un bail ou un check-it? Check-it seulement. Donc comme tu l'as dit au début, hein, c'est disponible chez Dark Horse.
Eh bien, moi, je vais aussi vous présenter en chantant Spider-Man. Donc,
ça rendra peut-être plus intéressant, parce que moi, ça m'attire pas du tout. Hein.
Alors, Brian Michael Bendis est au scénario, Sarah Piccelli est au dessin. Je ne m'intéressais absolument pas à cette mini-série Spider-Man. Je l'ai lu par curiosité, voilà.
Je pensais que tu ne la lirais pas. Hein.
Ouais, bah je l'ai quand même checké, et puis finalement je l'ai lu, puisque c'est assez rapide à lire, faut dire. Et une bonne et une mauvaise surprise. Je commence par quoi ?
La mauvaise. Je commence par la bonne.
Alors, je commence par la bonne, allez. Donc, les dessins de Sarah Piccelli, je les ai trouvés juste extraordinaires.
C'est pas vraiment une surprise, hein, elle était très bonne.
Ah, Sarah Piccelli sur Ultimate Spider-Man, ah oui. je n'adhérais pas du tout. Pas du tout. Attends.
Non, tu es en train de confondre.
Tu confonds,
oui,
tu confonds avec
exact,
la
Fuente. Mais exact.
Tu confonds avec La Fuente, ouais.
Avec La Fuente, mais oui, c'est terrible. Sarah Piccelli, exact. Mea culpa, j'ai beaucoup moins, quasiment pas lu au fait, depuis qu'elle est au dessin. J'ai dû juste checker quelques épisodes, donc de si c'est toujours elle qui fait les scénarios actuels, enfin non. Les dessins actuels, je veux dire.
Non, actuel.
D'accord, bon bah alors décidément. le premier épisode avec Miles Morales, est-ce que c'était elle, est-ce que c'était pas elle?
Oui. Et d'accord. Jusqu'au 6.
D'accord, bon bah alors j'ai lu peut-être les deux premiers. J'avais bien aimé, mais pas à ce point-là. Je trouve que la manière qu'elle a de dessiner justement le Spider-Man classique est excellente. Et voilà. Donc vraiment niveau dessin, j'ai été pas agréablement surpris. J'ai été vraiment conquis, quoi. C'est du très beau, très très bon. Par contre donc, là où j'ai une grosse réserve, c'est la grosse déception, c'est le scénario, concrètement il n'y en a pas. On savait que Spider-Man allait se retrouver dans l'univers Ultimate, transporté par Mysterio, ça avait été révélé déjà, qui était
comment il fait ça
méchant. On sait pas exactement.
Avec une machine, mais alors, ce qu'il faut voir c'est que...
C'est le Mysterio.
Ah, ben... Justement, ce que je voulais vous dire, parce que moi qui suis un lecteur de Ultimate, pour les lecteurs Ultimate, c'est hyper intéressant au niveau du scénario ce qui se passe.
Mais
c'est
oui,
peut-être quelque chose auquel t'es passé peut-être à côté, Bunny, parce que en fait.
Mais moi qui suis pas lecteur Ultimate, je l'ai compris, quoi. Donc.
Ouais.
Non mais alors, le truc c'est que là le Mysterio qu'on voit, honnêtement, il a le look du Mysterio classique. Maintenant. Si c'est celui de l'Ultimate, je veux bien, mais par contre, le look que j'avais vu de celui de l'Ultimate, c'était pas ça, quoi.
Il y a une phrase qui le dit tout simplement. Il dit, t'es mort, donc forcément, ça veut tout dire.
Oui, non, mais bon.
En fait,
bref.
Le petit truc, c'est que dans Ultimate, la dernière apparition de Mysterio, ça a parlé d'une clé mystérieuse magique. Je crois que c'est la clé du
Zodiac. La clé du Scorpion.
La clé du Zodiac, je crois. Et c'est quelque chose qui normalement permet de passer entre les dimensions. Et c'est un artefact magique donc qu'il connaissait. Et là, en fait, on se rend compte que peut-être qu'il le connaissait depuis très longtemps, qu'il avait déjà trouvé un moyen de passer de l'univers Ultimate à l'univers classique depuis peut-être beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Et en fait, c'est là où il y a quelque chose de super intéressant au niveau du scénario, c'est peut-être que ce ne sont qu'une seule et même personne, depuis toujours. Parce qu'on voit les costumes de l'univers Ultimate et il possède...
Le Mysterio, tu veux dire ?
Oui, c'est ça. Et parce que dans l'univers Ultimate, le dernier Mysterio qu'on a vu, en fait, on s'est rendu compte que c'était un robot qui était contrôlé à distance.
D'accord, mais je veux dire une seule et même personne, mais enfin bon, ça veut dire simplement que le Mysterio classique a découvert l'univers Ultimate. Donc que celui qu'on a vu dans l'univers Ultimate, ça a toujours été le classique.
Voilà, c'est ça.
Et en même temps, on l'a pas vu énormément. Je veux dire, il est apparu au début du relaunch par Bendis là, à l'époque où c'était David Lafuente, je pense.
On l'avait déjà vu avant lors d'un arc où il était déjà intervenu, mais sinon c'est vrai quoi. C'est, mais bon, du coup il y a un petit truc intéressant au niveau du scénar pour se poser la question, est-ce qu'on a déjà eu peut-être des crossovers entre les deux univers depuis très longtemps quoi, et sans s'en rendre compte.
Ouais. Mais bon, c'est un petit peu un retcon à la Bendy, c'est-à-dire tout était prévu d'avance, mais regardez j'ai mis des indices alors qu'au fait voilà quoi. Ok, mais bon.
C'est un petit détail, quoi, mais après, c'est vrai, ça va pas être le cœur du récit, quoi. Le cœur du récit, ça va être la rencontre entre les deux Spider-Man, quoi.
Voilà, de toute façon, ça ne changera pas les histoires qui ont déjà été écrites.
Oui.
Là, en l'occurrence, ça ne changera pas les histoires. Il y a peut-être eu déjà des crossovers sans qu'on le sache, mais ça ne changera fondamentalement pas l'ensemble de l'univers Marvel, ni l'univers Ultimate.
Non, bien sûr que non, mais c'est un petit clin d'œil sympathique, en tout cas, pour les lecteurs de l'univers Ultimate, quoi.
Ouais, on verra où ça va cette histoire de Mysterio. Toujours est-il que là, concrètement, pour ce premier numéro, il n'y a rien qu'on ne sache pas déjà à l'avance. C'est-à-dire que Mysterio l'embarque donc dans cet univers Ultimate, et puis bah ça se termine tout simplement sur la rencontre. Voilà, il croise sur la dernière page Miles Morales seulement sur la dernière page.
En même temps, c'était du Bendis, donc on pouvait pas s'attendre à un gros rythme effréné, quoi.
C'était c'est quand même problématique parce que cinq numéros, le premier. C'est le pitch, voilà, il y a rien. Quoi.
Donc, ouais, mais le point fort, c'est les dialogues, et c'est vrai que les dialogues sont très bons quand même sur ce numéro, je trouve. Il y a quand même pas mal d'humour, enfin, quand Peter Parker débarque dans l'univers Ultimate, c'est vraiment assez sympa, quoi.
C'est sympa, mais le truc, c'est que, en même temps, c'est assez simple, quoi. Le mec débarque dans l'univers Ultimate, t'as forcément matière à faire des trucs marrants, quoi. Je veux dire, directement, tu te dis, il va voir le Triskelion. Hein,
il le voit, ouais.
Oui, il le voit. Bon, bah voilà. Enfin, c'est normal, quoi. Il y a quand même matière à faire quelques petits clins d'œil sympathiques. Mais bon, globalement, l'histoire, enfin, il y a rien, quoi. C'est vide, quoi. J'ai trouvé que c'était quand même assez vide.
Je veux dire, avec Bendis, j'aurais pu le dire d'avance. Ça se termine sur la rencontre des deux. Ça, c'était obligatoire. Oui. De toute façon, n'importe quel scénariste aurait terminé.
C'est pour ça que ça m'intéressait pas à la base. C'est pour ça que ça m'intéressait pas à la base. C'est parce que je savais que ça allait se terminer sur la rencontre des deux. Et ni une ni deux, ça se rencontre sur la rencontre des deux. Et du coup, bon bah voilà. Que dire de cet épisode? C'est même pas un bail parce que, c'est un bail à la rigueur pour les dessins, quoi. Mais je veux dire, sinon, point de vue scénario, on peut tout à fait louper cet épisode, prendre le train en marche à partir du numéro 2 et ne rien avoir loupé, quoi, quasiment.
Kinged.
Bah pour moi c'est un bail. Après je suis juste un petit peu déçu qu'ils aient utilisé la ficelle Mysterio parce que ça fait penser un peu au scénario du jeu vidéo qui avait déjà eu. Où il y avait déjà eu justement ces échanges de dimensions.
Spider-Man Dimensions.
Alors attention, parce que là c'est encore plus intéressant, Kingen. Ça voudrait dire que peut-être Mysterio, on va te dire qu'il était aussi dans la dimension des jeux vidéo. Et que c'est le même.
Peut-être. Non mais c'est.
Ah bah c'est possible.
Peut-être, c'est possible. Après, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, les dialogues, voir justement le Peter Parker adulte dessiné par Piccelli aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc, pour moi, c'est un bail et j'ai vraiment envie de lire la suite.
D'accord. Bon, bah moi, je suis tout à fait plus mitigé. Ça m'a pas conquis. Plus que ça, il y a juste effectivement ces dessins de Sarah Piccelli qui sont top, quoi.
Pour moi, ce sera un check-it plus.
Ouais, voilà.
J'ai trouvé que le scénario, enfin, c'était bien écrit. Le scénario était prévisible, la fin avec la rencontre des deux, donc de toute façon, voilà. Ça, c'était prévisible d'avance. Par contre, les dessins sont somptueux. Reste toujours le problème qui me gêne, moi. Est-ce que on achète un comics uniquement pour les dessins ou est-ce qu'on l'achète aussi pour le scénario? J'avais dit déjà sur des choses comme Thief of Thieves ou finalement à la fin du premier épisode, on en savait autant que sur la sollicitation, que c'était des choses qui me dérangeaient. Là, c'est vrai qu'on a quelques petites surprises, on a quelques petits éléments qu'on ne savait pas forcément, des petits moments sympathiques d'écriture, mais dans l'ensemble, on n'en sait pas vraiment plus qu'avec la sollicitation. Donc, bon, c'est pour ça que je mets qu'un check-it plus. Voilà.
Mais enfin, néanmoins, dommage que Sarah Piccelli ne travaille pas plus sur l'univers 616, sur Spider-Man, quoi. C'est dommage.
Peut-être après, on verra. Par contre, moi, j'ai juste une petite question pour toi, Benny. T'étais pas censé faire une pause Marvel après avoir lu AVX 5?
J'ai même oublié. Mais attention, je vais faire une pirouette, je vais dire que ouais, c'est l'univers Ultimate, donc c'est pas tout à fait l'univers 616.
Non, t'avais dit Marvel, hein.
C'est vrai, j'ai dit ça en plus. J'ai oublié tout simplement tout à l'heure.
Voilà, donc ça c'est fait. On va continuer avec... Bon, on va rester chez Marvel. Je vais aller assez rapidement avec le Incredible Hulk numéro 9. Jason Aaron toujours au scénario. Pasquale Ferry au dessin. Hulk se retrouvait en plein milieu d'une cité atlantéenne à la fin du dernier épisode, se réveiller après un petit canular de Bruce Banner qui avait pris son contrôle. Et comme d'habitude, dans une situation assez inextricable où il comprend pas trop ce qui se passe. L'arc s'appelle toujours Stay Angry, donc rester en colère, et effectivement, ça va être son but, quoi. Ne pas redevenir Bruce Banner quand il devient calme, puisque Bruce Banner continue de lui jouer des tours de con, hein, on peut pas dire ça autrement.
Des coups de pute.
Qui grave, quoi. Donc là, il va devoir se battre contre toute une ville de l'Atlantide. c'est assez énorme. C'est franchement, c'est fun. Il y a des bonnes idées. les dessins de Pasquale Ferri font plaisir à voir quand on voyait l'atrocité que c'était avec Wells Portacio. Certes, c'est plus cartoony, mais c'est quand même vachement plus joli. Donc non, moi franchement, je trouve que c'est un bon épisode. Et alors, encore une fois, un final où finalement Hulk va perdre le contrôle et va se calmer et va se réveiller dans une situation encore pire. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que cela peut être. Moi, j'aime bien ce nouveau principe. L'épisode prochain nous promet quelque chose de complètement barré, encore une fois. Non, beaucoup d'humour. J'ai l'impression d'un Jason Aaron qui ressemble plus à celui que l'on voit sur Wolverine and the X-Men que celui que l'on a pu voir, par exemple, sur Punisher. Voilà, il est beaucoup plus dans le délire Wolverine and the X-Men. Donc, pour moi, ce sera un petit guilty pleasure, quoi. Un petit bail, parce que, voilà, ça reste un petit guilty pleasure à lire ça. On va maintenant écouter Le Coin du Libraire, enregistré un petit peu plus tôt dans l'après-midi avec Damien, et puis on se retrouve juste après. Et nous voici pour Le Coin du Libraire, en compagnie de Damien d'Astro City. Damien, bonjour.
Salut Steve, bonjour tout le monde.
Comment vas-tu ?
Bon, écoute, comme me disait je ne sais plus qui, tout va bien, rien ne va mal.
C'est parfait. Bon,
ouais, on va commencer comme ça.
Alors, parle-nous de ta petite sélection de la semaine.
Alors, cette fois-ci, une fois encore, un Marvel, un DC, un Indé et... une surprise. Chez Marvel, le Amazing Spider-Man 687, donc le Spider-Man de cette semaine, qui clôt, et qui clôt parce qu'il faut clore un jour, hein, donc c'est dans celui-là, qui clôt l'arc Ends of the Earth, qui était un arc qui démarra très fort, hein, c'est pas toi qui vas me dire le contraire.
Ah non, j'ai beaucoup apprécié.
Qui était un poil peut-être un peu creux au milieu, mais qui se termine... plutôt pas si mal que ça, après le gros creux qu'on a eu au milieu de l'arc. Parce qu'il y a un personnage qui, semble-t-il, meurt. Je n'en dirai pas plus.
Et, peut-être même deux, d'ailleurs.
Peut-être même deux, tout à fait. Oui, peut-être même deux. Probablement deux, d'ailleurs. Et c'est bien, parce que c'est une fin un peu méchante. Ça change de Marvel, qui nous fait souvent des fins un peu... allez, on est redevenu copains, ou allez, tout va bien, ça y est, on va remonter le monde. Mais là, non, ça finit... pas super bien, et c'était plutôt pas mal. Casely fait un très bon boulot. Slott, il fait, Slott, j'aurais du mal maintenant à concevoir un autre scénariste que lui. Il y en aura d'autres, hein. Mais, là, il a vraiment fait, depuis qu'il est sur le titre, un boulot, vraiment chouette.
Bah, il a réussi à remonter une franchise qui était quand même en gros dépérir, hein, parce que, on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas nier que Joe Quesada quand même fait beaucoup de mal sur Spider-Man avec son Brand New Day. Ça a attiré des nouveaux lecteurs, c'est certain, mais ça en a aussi fait fuir beaucoup. Et je pense que Slott a quand même réussi à faire remonter le titre depuis son arrivée, et ça, c'était quand même un joli exploit vu les chiffres de vente de Spider-Man qui tombaient quand même pas mal.
Tu m'étonnes. Non, c'était un bon épisode, quoi, le 6,87. J'en démords pas, ça finit bien le cycle. On attend le prochain avec impatience, mais voilà, j'en dis pas plus, c'était pas mal. Largement conseillé.
Oui, surtout que le prochain arc promet d'être aussi sympathique.
Oh donc... oui, oh oui.
Ça risque d'être assez un peu plus rentre-dedans, là, cette fois-ci, je pense.
Ouais, ouais.
Un peu plus gore, on va dire.
Alors, j'en viens maintenant à la sélection DC de la semaine. C'était une petite semaine DC sympa, avec du Batman et Robin, une petite chose comme ça. Mais, j'ai sélectionné pour vous le Green Lantern numéro 10, qui est, et là encore une fois, c'est peut-être une coïncidence, mais j'en suis pas certain, la fin de l'arc Indigo Rising. Je sais pas si t'avais fait un peu le...
Alors, moi, j'ai rattrapé l'arc, justement, avant-hier et hier, pour lire ce dernier épisode. J'attendais, en fait, que l'arc soit sorti pour le lire en entier, parce que j'étais, ces derniers temps, enfin... voilà, tu le sais sûrement si t'écoutes les weekly, j'étais un petit peu déçu du travail de Jeff Jones. Et je vois que j'ai pris une jolie claque avec cet arc, mais dans le bon sens du terme cette fois-ci.
Oui, tout à fait. Franchement, là, j'ai vraiment bien aimé cet arc-là. Il nous prend un peu au dépourvu du début à la fin. Et la fin est particulièrement, là encore une fois, agressive, méchante. Il y a le Black Hand qu'on voyait depuis le début, comme ça en fond, qui prend une place un peu prééminente. À mon avis, le prochain arc devrait être un peu noir, sans mauvais jeu de mots.
Il y a de fortes chances.
Voilà. Et il y a des nouveaux rapports qui sont établis entre Sinestro et Aldordan, et franchement, le plus faible des bœufs n'est pas forcément celui qu'on croit.
Peut-être c'est encore une fois que la relation va de nouveau s'inverser ou pas, justement. Et... enfin, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, on est dans le spectateur.
Ouais, exactement. En plus, là, une fois de plus, Manque qui fait un boulot...
Voilà. C'est somptueux. Encore voilà. Une fois, c'est somptueux. Quoi. Il s'entoure quand même de très grands, hein, entre Doug Monkey, entre Ivan Reis et Jim Lee.
Tu m'étonnes. Et il y a surtout aussi le C'est à l'ami Christian, l'ami qui est encreur de Doomman. J'aimerais bien rencontrer ce monsieur à l'ami parce qu'il n'arrête pas de dire du bien de la France à Doomman. Et Doomman n'arrête pas de me dire, faut que je vienne en France, faut que je vienne en France. Christian n'arrête pas de m'en parler en bien, etc. Donc, il doit être bien ce monsieur. On va essayer de le voir un de ces quatre. J'adore ça.
Ouais, il fait un très très bon boulot en plus.
Donc le Green Lantern, vraiment vraiment chouette, et je défie quiconque qui a bien aimé cet arc-là de pas s'empresser de lire le numéro 11, quoi, parce que c'est sûr que c'est la fin de l'histoire, certes, mais on est tenu en haleine pour la prochaine, et ouais, enfin, moi j'attends ça avec impatience.
Oui, alors entre ce cliffhanger qui promet énormément de choses et l'annonce que l'on a hein, du ce futur Green Lantern qui va débarquer on ne sait où, il y a des choses à voir, je pense, dans les pages de Green Lantern pour les prochains mois. Ce qui me fait beaucoup plaisir d'ailleurs, parce que j'avais un peu perdu mon intérêt pour Green Lantern, et là c'est remonté en l'espace d'un arc. Comme quoi.
Ouais, exactement. J'avoue que le premier arc était un peu, je peux dire plan-plan, c'est pas ça, c'est négatif, mais un peu décevant peut-être par rapport à ce qu'on avait pu lire et ce qu'on pouvait espérer de la part de Geoff Johns. Et là, pour le coup, il a remonté la pente, mais ouais, il a passé la seconde. Donc ça, c'est... Ouais. Ma troisième sélection du jour, c'est un titre de chez Dark Horse. Qui aurait pu d'ailleurs être édité ailleurs que chez Dark Horse, qui aurait très bien sa place chez Vertigo pour des raisons évidentes que vous allez deviner rapidement. C'est donc The Massive de Brian Wood et Christian Donaldson. The Massive qui a un petit arrière-goût, mais très 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 lointain de DMZ. C'est peut-être la situation quasi post-apocalyptique ou un futur très proche en même temps.
Oui.
Toute la civilisation telle qu'on la connaît elle est totalement anéantie.
Il a l'intelligence de nous donner des dates sans jamais nous donner d'années.
Exactement.
Donc, voilà. On a une date, on sait que s'est passé telle chose le 29 janvier, par exemple, mais on ne sait pas quelle année. Donc, ça peut très bien être 2011, 12, ou 15, ou 27, quoi.
Et c'est très chouette, cette histoire. En fait, c'est, on en parlait tout à l'heure, les personnages principaux sont très charismatiques, et ils sont peu en même temps. Ils sont que trois, peut-être un quatrième qui apparaît brièvement, mais en fait, on a vraiment envie de, il se passe plein de choses déjà. On a plein d'informations. Pas forcément très approfondi, certes, mais il donne largement là aussi d'envie de lire rapidement la suite, parce que c'est très chouette. C'est en même temps, il y a un petit fond de d'éco-warrior derrière, il y a des thèmes très très politisés, c'est ouais, non, chouette, franchement, très bonne surprise, très bon boulot de Donaldson, franchement.
Ouais.
Qui a encore évolué, qui est un peu plus qui a un trait un peu plus réaliste encore. C'est plaisant.
Il y a aussi un très joli travail sur les couleurs, d'ailleurs.
Eh ouais. C'est Dave Stewart. Bah oui, c'est Dave Stewart.
Forcément. Ouais. Et une mention spéciale quand même pour nous avoir placé le Kamchatka, qui est, je trouve, un pays dont on ne parle pas assez dans les comics.
Oui, il y a une petite carte à la fin avec le fameux Kamchatka, qu'on trouve pas très loin de la mer de Bering aussi d'ailleurs, et de Pribilof.
Que j'avais appris à connaître en jouant au risque à l'époque. C'était ma seule notion sur ce pays.
Géographique. Non, c'est très 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 chouette. Donc, le mouvement éco-warrior s'appelle la 9e vague, The Ninth Wave. Et bon, c'est malheureusement très réaliste.
Oui.
C'est bien que ça fasse peur, mais c'est très... Voilà. C'est très agréable, c'est super en anglais. Et en même temps, ça met mal à l'aise parce que tout ça, c'est tellement réaliste.
Mais c'est la force et l'intelligence de Brian Wood, justement.
Toujours. Ouais. Toujours, c'est comme son DMZ, quoi. C'était crédible, mais alors, quasiment du début à la fin.
Ah, complètement, ouais.
Et ça laisse un peu pantois. Et tu dis que l'humanité est toujours sur la frange et on pourrait très bien passer de l'autre côté.
Je ne sais qu'ajouter, puisque tout est dit. Voilà.
Bon, je vais parler maintenant de notre petite surprise. Comment dire, c'est pas une VO, c'est une VF, mais c'est autre chose. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Tank Girl, puisque c'est Tank Girl dont il s'agit, est édité en Angleterre et distribué aux États-Unis sous le label Titan Comics. Et régulièrement, ils font des petits arcs, des petites histoires, avec toujours Alan Martin au scénario, mais des équipes de graphistes qui changent. Il y a eu surtout Jimmy Mulet, forcément, il y a eu également Rufus Deglow, il y a eu un petit peu d'Ashley Wood, etc. Et le dernier en date, c'est Jim Mahfood. Oui, le Jim Mahfood, Food One. Donc, est sorti la semaine dernière le premier numéro de la nouvelle mini-série qui s'appelle Everybody Loves Tank Girl, qui sera une mini-série en trois parties. Et en fait, l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'ouvrage qui est édité chez Ankamore. Et oui, les petits français d'Ankamore, les grands français d'Ankamore.
Oui, parce qu'ils sont tellement développés aujourd'hui.
Ils sont super, et voilà. Et ils nous sortent Everybody Loves Tank Girl en un seul volume, la mini-série complète. Bennigsen.
Donc, réfléchissez, il y a que le premier numéro de sortie aux États-Unis et en Angleterre.
Exactement, donc le 2 au mois de juillet, le 3 au mois d'août. Soit vous attendez donc encore deux bons mois pour lire toute l'histoire, soit vous l'avez intégralement au format, un joli format, un petit format 100% Marvel avec une belle couve en dépoli. Enfin, c'est super beau. Alors, c'est un ouvrage qui doit faire à peu près 79 à 80 pages, je vérifie 80, et qui a le mérite d'être coloré de façon diverse et variée. Il y a du noir et blanc, il y a du automne, il y a du nouveau de gris, et il y a de la couleur. Et la coloriste, c'est une demoiselle qui s'appelle Anne Mas, qui est très douée. C'est un super ouvrage, vraiment très, très graphique, forcément, parce que ma foot, hein, faut pas se leurrer. Et on sent quelque part qu'il s'est bien amusé. Alors, je pense qu'on n'est pas obligé d'aimer Tanger ou de connaître Tanger, parce que c'est une histoire complètement dérangée. Il y a des moments, c'est, on dirait des petites poésies illustrées. Enfin, c'est super, vraiment. C'est une bonne claque graphique, en tout cas, et très chouette. Une bonne surprise. Merci Alan Martin, merci Jim Mafoud, merci en commun.
Oui, c'est clair que c'est tellement peu courant d'avoir une sortie où bah, finalement on a toute l'histoire en VF avant tout le monde.
C'est le serpent qui se prend la queue.
C'est assez impressionnant, mais que les Américains ne liront pas puisque c'est en français.
Bah non, c'est pas bien en français. Non, c'est chouette, vraiment chouette. Au boulot en commun, merci.
Très très bonne trouvaille. Alors, je crois que pour finir, tu avais un petit message particulier à nous transmettre.
Exactement. Une fois n'est pas coutume, je vais passer un petit coucou. Et alors là, tiens-toi bien, c'est un coucou qui part loin. En fait, j'ai été contacté il y a pas très longtemps au magasin par un monsieur très sympa, très sympathique, très souriant, même au téléphone, d'ailleurs, ça s'entendait. Et donc voilà, c'est Jean-Pierre B. Je ne vais pas citer son nom. Jean-Pierre B, donc je passe un bonjour à Jean-Pierre B. Et je le fais en fait pour une seconde raison, c'est que Jean-Pierre B suit le podcast de Comic City, suit le coin du libraire depuis, tiens-toi bien, le Québec.
Ouh, non, ouais, c'est énorme.
T'as un auditeur au Québec. Oui, monsieur Jean-Pierre B, voilà, je salue. Et puis, comme ça, t'as un monsieur français qui a quand même des attaches familiales encore en France. Je me dis peut-être qu'un jour, on aura le plaisir de le voir pour un salon ou comme ça, une visite impromptue. Et j'attends ce moment avec impatience, voilà.
Et donc, il a découvert Astro City en écoutant les coins du libraire.
Exactement, voilà. Donc, c'est qu'on doit être vraiment super intéressant, au final.
Mais toujours, de toute façon. Il n'y a pas de mal à se passer un peu de pommade soi-même.
Tu m'étonnes. Il ne faut pas compter sur les autres pour ça, donc on y va.
Hein, mais c'est complètement fou, en fait.
Waouh, le Québec, waouh.
Bon, ben, je crois que nous pourrons conclure en disant « Vive le Québec libre ».
Aussi.
Je crois que c'est une formule en plus qu'il n'apprécie pas plus que ça, hein. Que tout le monde la reprenne comme ça.
Ouais. Aussi pour que tu mettes, un petit bandeau sur Comic City, marqué écoutez jusqu'au Québec. quand même. C'est du World Wide Web.
Ah oui, mais là, c'est la mondialisation au sens premier du terme, quoi. C'est assez impressionnant.
J'étais donc, ouais, comme tu dis, j'étais super impressionné, épaté, et puis content, voilà, d'être contacté par ce monsieur B du Québec.
Eh ben merci à lui, et puis qu'il n'hésite pas à nous faire un petit coucou, hein. Ça nous fera plaisir aussi. Sur ce, c'est la fin du coin du libraire. Merci encore une fois Damien de t'être rendu disponible pour enregistrer ce petit segment avec moi.
Ben merci aussi de m'avoir convié, parce que c'est toujours un bon moment.
Oui, c'est un plaisir. C'est vrai que là on n'en a pas fait ces dernières semaines, parce que le planning ne tombait pas forcément super bien, mais on n'avait pas oublié la chronique, vous inquiétez pas, chers auditeurs.
Et j'avoue que ça m'a manqué.
À moi aussi. Moi aussi, honnêtement, avoir un avis aussi éclairé, et c'est pas que passer de la brosse à reluire de le dire, mais c'est vrai que ça fait longtemps que tu suis du comics, enfin tu es en plus un vendeur de comics, donc voilà, tu as un avis aussi autant de lecteur que d'un peu plus professionnel du milieu, et avoir un avis éclairé aussi éclairé, justement, c'est un avantage aussi pour les lecteurs, voir des choses qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de trouver très facilement, qu'il y ait des petites perles comme Tanger, justement, ou The Massive. Par exemple.
C'est pas fou.
Merci Damien. Je rappelle que vous pouvez retrouver Damien ainsi que Fred dans la boutique Astro City.
74 rue de l'Hôpital Militaire à Lille. C'est en plein centre de Lille, pas très loin d'une grande enseigne de vêtements de prêt-à-porter qui porte le nom d'une des saisons. Vous pouvez pas vous tromper, c'est entre l'hiver et l'été. Voilà.
Non, nous ne leur ferons pas de pub gratuitement.
C'est un avis, monsieur.
Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver Astro City sur leur site web, astrocity.fr.
Tout à fait.
De toute façon, le lien sera mis dans les notes du podcast, comme toujours. Et puis, bah, n'hésitez n'hésitez pas à leur faire un coucou et ou alors passer commande, même si vous n'habitez pas à Lille, parce que la preuve, Monsieur B a pu commander du Québec. Alors pourquoi en France vous ne pourriez pas commander?
Merci, Monsieur Steve.
Je t'en prie, c'est un plaisir. On se retrouve très bientôt, Damien, et puis on se retrouve aussi pour la suite du Comics Weekly.
Ciao.
Merci Damien, on se retrouve donc très bientôt pour un prochain Coin du Libraire. On va continuer sur les reviews de la semaine avec une review dont on a déjà parlé avec Damien tout à l'heure. Le Green Lantern numéro 10, qui est la fin de l'arc The Secret of the Indigo Tribe. C'est scénarisé par Jeff Jones, au dessin Doug Monkey, Christian Alamy, Christian Payne, Mark Irwin et Tom Nguyen sont à l'ancrage. À la fin du dernier épisode, Hal Jordan avait un petit peu involontairement fait péter la batterie centrale. En tout cas, c'était pas lui qui l'a explosé, mais c'est un petit peu à cause de lui que la batterie centrale Indigo avait explosé. Et donc, avait libéré par là même du contrôle de la force Indigo tous les membres de cette tribu. Et vu qu'on avait appris que ce sont que des anciens criminels repentis un peu contre leur volonté, Sinestro et Hal Jordan étaient dans la merde. Je pense avoir résumé à peu près correctement.
Oui, c'est ça, ouais.
Alors donc c'est la fin de l'arc, ça va très vite, ça bouge dans tous les sens.
Et, c'est excellent.
C'est très très bon. très très bon. J'ai rattrapé tout l'arc, de toute façon vous le savez déjà parce que vous l'avez entendu, j'ai rattrapé tout l'arc entre avant-hier et hier. Je suis impressionné par la qualité d'écriture de Jeff Jones quand il veut bien s'en donner un petit peu les moyens.
Ah ben moi j'ai trouvé que alors c'était bien hein, ces derniers épisodes, mais je veux dire, il se passe
le
pas.
Le rabat-joie plus... cette semaine, là, Benny.
Non, il se passe pas non plus énormément de choses dans ce dernier épisode.
C'est le rabat-joie en ce moment, en fait.
Oui, non, mais ouais, attends. Honnêtement, ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui arrive à Black End. Mais le reste, tout rentre dans l'ordre, quoi, j'ai envie de dire.
Tout rentre dans l'ordre, oui, non.
Il y a des développements des personnages qui sont assez inattendus, moi, je trouve. Et
puis alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Il crée une bagnole. Tu sais, il crée un gros Hummer avec Sinestro. Et les sièges sont pas verts. Ça veut dire que les sièges sont réels. Il a trouvé des sièges comme ça. Il a créé une bagnole autour.
J'ai pas vu ce détail, tu vois.
Non, mais c'est pas grave. Hein. C'est juste pour
détail, tu vois, mais
Ah, des fois des détails, hein, tu sais.
Ben, c'est peut-être un indice que Mysterio est peut-être aussi derrière tout ça.
Mais si les sièges sont verts.
Non, monsieur. Mais non, attends, c'est pas possible.
Le plan, ouais. Où tu le vois dans la voiture. Ouais. Mais ça, je pense que c'est une erreur du coloriste. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé cet épisode assez énorme. J'avais déjà adoré la fin du numéro précédent avec justement ce Natromo là qui.
Oui, moi j'avais adoré l'épisode précédent vraiment. Alors là,
Et justement, j'ai bien aimé l'état de panique de Hal quoi. Mais il faut absolument reconstruire cette lanterne quoi. Et c'était assez bien fait. Et le team up avec Sinestro, on voit que ça se développe, les dialogues sont bons et on sent que le personnage commence à évoluer pas mal Sinestro. Et après, c'est peut-être juste un jeu. Il cache peut-être encore ses.
Oh, moi je suis sûr qu'il fera un coup de pute de ces jours. Oh, je suis sûr qu'il va faire un méga coup de pute à Hal Jordan d'ici le numéro 20. Voilà.
Probablement, mais je trouve que dans l'écriture, là, on finit par trouver Sinestro de plus en plus sympa. Et c'était. Puis bon, comme tu dis, c'est vrai que la fin était ultra cool. Et,
oui. Mais ça.
Je viens de voir un truc en regardant cette dernière page. Ça va être très difficile de dire ça sans spoiler, mais le design que l'on voit sur la dernière page vous fait pas énormément penser au nouveau Green Lantern.
Ah.
Au niveau du masque et tout.
Non.
J'aime bien parce que.
Mais en même temps, ça serait cohérent avec ce qui se passe chez les gardiens.
Oui, mais je pense pas parce que je crois qu'en plus ça avait été Jeff Jones avait dit que ça faisait partie des rumeurs sur justement l'origine de ce futur Green Lantern et que c'était pas le cas. Donc, mais
ça, on t'a pas entendu du tout sur Green Lantern pour le moment.
Réservé.
C'est plus fort que moi hein, quand même.
Non mais c'est bon comme épisode, mais je trouve des incohérences dans l'arc qui me dérange.
Alors du style.
Le fait qu'il explose la lanterne dans l'épisode précédent, juste parce qu'il lui a dit Abinsur est mort. Ah bon, moi ça sert à rien, j'explose la lanterne.
Mais ça c'est énorme, le personnage est complètement taré, c'est un vieux, il est tout seul sur sa planète,
voilà, je trouvais ça un peu facile.
Ouais, mais en même temps, c'est pas illogique quoi. C'est exactement le type de réaction que t'attends d'un vieux.
Le truc qui me dérange le plus, c'est le combo Hal Jordan Sinestro qui me gonflait déjà à la fin de l'épisode 1 avant même que ça commence. Donc
10 épisodes plus tard, ça me gonfle toujours autant.
Là, on a peut-être un retournement de situation, encore une fois. Donc, il faudra voir. Ça peut peut-être apporter un autre retournement de situation, encore une fois, et rechanger la dynamique de ce team-up forcé. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, mais il y a quand même toujours cette mythologie Green Lantern qui s'enrichit au fur et à mesure. Je trouve que c'est vraiment bien fait de la part de Jeff Jones. Et...
Moi, dans les incohérences de l'arc, quand même, un petit truc que tu n'as pas soulevé, Sam. Mm-hmm. On voyait dans le premier épisode, alors c'est tout frais dans ma mémoire parce que je les ai lus il y a deux jours. On voyait dans le premier épisode Carol Ferris qui enfilait tout de suite sa bague de Star Sapphire. On disait bienvenue, re-bienvenue dans le dans les Star Sapphire Corps là. Et donc je pensais que elle arriverait, sauverait un peu la situation, retiendrait les Indigo Tribe un petit peu pendant qu'ils reconstruisent la lanterne ou un truc dans le genre. Mais non. En fait, elle a remis sa bague, mais elle n'a servi à rien de tout l'arc.
Bah, elle a couché avec Hal Jordan.
Mais j'ai l'impression surtout que Jeff Jones ne sait pas quoi faire ce personnage, honnêtement.
Alors, je crois que dans les sollicitations, elle va apparaître dans une autre des séries, en fait. Je crois que c'est soit dans les New Guardians, soit dans...
Ce qui prouve bien qu'il sait pas du tout quoi en faire.
Il apporte de l'eau à mon moulin, exactement. Mm-hmm. Il sait pas quoi en faire, il la file à quelqu'un d'autre.
Ouais, mais c'est pour justement donner cet univers cohérent des Green Lantern. Ouais,
non, c'est juste ridicule, ça servait à rien de nous la remettre là-dedans. On aurait très bien pu faire un plan sur elle dans une autre série où elle remet sa bague.
Ouais. Du coup, personnellement, j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'elle intervienne dans l'arc.
Bah oui, moi aussi. Je m'attendais à son arrivée, quoi. Je me disais, bon, elle va arriver à sauver la situation. Ça fera un peu Deus Ex Machina, puisqu'elle va arriver comme ça, va retrouver la planète, un peu le hasard comme par hasard, mais bon, à la rigueur, quoi. Ouais, mais en fait, là, elle a servi à rien. Donc on a eu toute cette séquence où elle met sa bague pour rien. C'est naze.
Non, mais je trouverais ça intéressant de voir Hal et elle travailler ensemble, en fait.
Moi, ça, oui, parce qu'on nous avait montré un petit peu ça pendant Blackest Night. Après, on l'avait un petit peu oublié. Elle avait un petit peu lâché sa bague et depuis, on la voyait pas, quoi. Mm. On aurait très bien pu avoir la situation inversée pendant qu'il était sur Terre, sans pouvoir que elle devienne une espèce de à son niveau de super-héroïne, aller sauver un petit peu la veuve et l'orphelin et que lui reste à la maison tout seul comme un con et comprenne l'effet que ça donne. Non, il s'est pas engouffré dans cette brèche-là. Il a préféré que Carol Ferris enlève totalement son anneau et ne fasse plus partie du corps.
Bon, en même temps, Hal Jordan était quand même assez pathétique au début de la série. Hein. Il était déjà assez pathétique comme ça.
Oui, mais ça aurait pu rajouter au côté du personnage, le faire tomber un peu plus bas, justement. Bon, enfin, c'est vrai qu'après, c'est toujours plus facile de critiquer après en disant il aurait dû faire ça. En tout cas, moi, pour moi, c'est un gros gros bail, encore une fois, cette semaine, d'essai carton plein.
Oui, c'est vrai que DC, c'est autrement plus sympathique, justement.
Moi, je suis encore mon gros fanboy, mais ouais, j'ai vraiment adoré toutes mes lectures DC de cette semaine, quoi.
Ouais. Non, mais ça devient de mieux en mieux, hein. Ils attaquent vraiment, les choses telles que ça doit être, quoi.
Il aurait fallu attendre 9-10 mois, quand même, hein.
Il a fallu attendre la fin du premier arc, à chaque fois, souvent, quoi. 5-6 numéros pour que ça démarre vraiment. C'était un petit peu un démarrage diesel, hein.
Alors pour moi c'est un gros bail, j'ai vraiment bien aimé cet arc.
De mon côté plutôt un bail moins.
D'accord. C'est un bail à tendance check-it et non pas un check-it à tendance bail.
Ça reste sympathique, mais voilà, j'ai des trucs moi qui commencent à me gonfler sérieusement dans cette série.
Bon, le verre est à moitié plein.
Allez. Allez, on va faire maintenant de la review express pour terminer cette émission et pas qu'elle soit trop trop longue. Eh bien King, aide à toi.
Suicide Squad numéro 10 avec Adam Glass au scénario et Fernando Danino au dessin, donc c'est toujours la même équipe qui gagne. Pour moi, c'est toujours le comics badass qui envoie du pâté. Et donc le scénario, là, en fait, on en apprend un peu plus sur Basilisk, cette fameuse organisation criminelle que Suicide Squad essaye de faire tomber depuis le début de la série. On voit le retour d'un personnage qu'on croyait être mort, mais qui finalement s'en est sorti et de façon assez bizarre. Et surtout, on en apprend un peu plus sur justement le fait qu'il y a un traître dans l'équipe. Maintenant, Amanda Waller s'en rend compte. Pour moi, c'est toujours plaisant, très très sympa au niveau des dialogues, assez parfois un peu vulgaire, un peu assez badass, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est un bail. J'aime beaucoup Suicide Squad.
Ok. Sur une échelle du pâté,
Ah, c'est un bon petit pâté, quoi. C'est pas du niveau de la lanterne, mais c'est un bon petit pâté.
Un bon petit pâté en
plutôt de la rillette ou plutôt du pâté de foie?
Ouais, plutôt de la bonne rillette, mais de bonne qualité, quoi.
Ouais, de la rillette du producteur, quoi.
Ouais, la rillette de chez nous.
J'aime beaucoup ton accent paysan, Sam.
Bon duo, bientôt que tu l'aimes, moi, accent.
Oh, mais attends, tu dois nous faire, allez, vas-y, fais-nous une review express comme ça. Choisis, n'importe le...
Non, ça va.
Si, si.
On continue avec le Amazing Spider-Man numéro 687, dont on a aussi parlé dans le coin du libraire, Dan Slott au scénario, Stefano Caselli au dessin. La fin de l'arc Ends of the Earth, hein, ce fameux gros event. Bon, moi je vais pas trop en parler, je vais te laisser en parler, ça m'a déjà donné un petit peu mon avis dans le coin du libraire.
Ouais, très mitigé hein, l'avis, hein, parce que... Donc grosso modo, comme tu l'as dit, c'est la confrontation finale entre Spidey et le Docteur Octopus et les Sinister Six. Ouais, bof, hein, quoi... C'est le truc cataclysmique qu'on attendait, non. Voilà quand même un scénariste, ça fait 2 ans qu'il nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir dans cet arc, ça va être énorme, ça va être tout, ça va être... Et puis non. C'est un truc que j'ai remarqué avec Dan Slott. Il est très bon sur les épisodes réguliers de la série, c'est-à-dire les petits arcs, les trucs comme ça, ou vraiment la continuation de la série dans une collection de petites histoires. Alors dès qu'il attaque les gros arcs, ça devient très moyen.
Enfin, j'ai l'impression qu'il se réserve aussi pas mal pour l'épisode, ce sera quoi? Ce sera le 700, du coup?
Ouais.
Voilà, j'ai l'impression qu'il se réserve quand même pas mal pour ça. Et puis, il y a aussi l'annonce, on en a pas parlé dans les news d'ailleurs, de Alpha. On sait pas ce que c'est. Voilà. Un personnage, un arc, je ne sais pas.
Donc voilà, donc personnage Alpha très mitigé. Hein. Ce sera un check-it. Ce sera un check-it, vraiment, parce que...
Ça... Mais moi, j'ai déjà donné mon avis, je vais donner quand même ma note. Ouais, check-it aussi. Il y a à noter quand même la mort d'un personnage. Bien connu de l'univers Marvel.
Prétendu. On la voit pas.
Peut-être même deux. Donc, bon.
À voir si ça tient.
Oui, à voir, bien sûr. Tant qu'on est sur l'univers Spider-Man, je vais continuer avec le Scarlet Spider numéro 6. C'est donc Chris Yost au scénario, Ryan Segman au dessin. La ville est en train d'accepter de plus en plus Scarlet Spider comme un héros, ce qui lui pose quelques petits problèmes de conscience, qu'il est toujours un petit peu dans son pathos de mais je suis quelqu'un d'horrible.
Pourquoi je suis un méchant. Battez-moi.
C'est un peu ça.
Frappez-moi. Oui, j'en veux plus.
On voit un peu plus cette relation avec cette petite gamine Arasoli. Qui a quand même des choses très bizarres. Hein. Quand elle ferme les yeux, elle peut voir par les yeux de Kane, elle peut le ressentir, savoir où il est, pourquoi cette connexion avec lui, on en voit un petit peu plus sur elle. Une scène assez marrante, où la fille ressemble un petit peu, dans l'état d'esprit, c'est un petit peu le personnage de Leila Miller, quoi. C'est-à-dire qu'elle va devenir un truc ultra choquant, du genre, quand je ferme les yeux, je vois par les tiens, et la phrase d'après, dire, oh, dis donc, tu veux de la tarte aux pommes? C'est complètement surréaliste. Et puis Kane.
C'est choquant, moi, c'est choquant. Je suis désolé, mais une petite fille qui me dit tu veux de la tarte aux pommes.
Non, mais c'est surréaliste parce que dans son dialogue, enfin, il y a vraiment pas de suite, quoi. Et Kane a du mal à la suivre.
Oui, il y a pas de lien. Ouais. Okay.
Et Kane va finir par être attaqué par la fille Kravinoff. Hein.
Ah, c'est.
Il y avait longtemps.
Et oui. Et donc il revient le hanter et on va comprendre un petit peu pourquoi. Enfin en tout cas on va avoir des premières réponses de pourquoi et ça laisse présager quelque chose d'assez intéressant pour l'avenir.
Mais elle est pas censée être morte ?
La fille non.
C'était la mère. C'était Sacha je crois qu'elle s'appelait.
Comment à la fin de Grimpin elle se faisait pas buter ?
Non, mère. Je sais plus comment elle s'appelle. Du coup.
On s'en fout.
À noter quand même qu'on a 4 épilogues. Quatre épilogues avec chacun des séquences différentes. Et vraiment, pour la suite, on va avoir des trucs, je pense, relativement sympas. Moi, je continue d'aimer cette série. Pour moi, c'est un bail.
Bah, moi, ça me semble déjà plus intéressant que les premiers. Donc, en tout cas, j'irai la lire, sans doute.
C'est surtout un épisode de développement de personnages. Hein. On repose les choses, on fait avancer un petit peu les intrigues secondaires sur les autres personnages. Et on va démarrer sur quelque chose de nouveau, mais c'est un épisode un peu plus posé, en fait.
Alors, une petite review express DC Comics mode fanboy encore une fois. Je vais vous parler de Superboy numéro 10. J'avais pas trop aimé les précédents numéros. J'avais pas aimé la fin de The Culling, mais là j'étais assez surpris par la suite. C'est un team-up entre Superboy et Wonder Girl, donc Cassie Sandsmark, qui à la fin de The Culling se retrouve dans un endroit mystérieux. En fait, c'est basé sur ils apprennent à se connaître l'un l'autre. On voit que Superboy commence à avoir des sortes de sentiments pour cette fille qui est quand même assez... qui sème un peu le chaud et le froid, en fait c'est vraiment hyper bien écrit. Le personnage de Superboy là du coup il prend énormément de substance en un seul numéro. Pareil
mais
pour
attends,
Cassie Sandsmark.
Excuse-moi mais je suis en train de le checker justement les dessins quoi.
Alors les dessins en plus c'est Sébastien Fiumara, c'est vraiment très sympa. Je sais plus si j'ai dit si c'était Scott Lobdell au scénario, c'est probablement. Et donc ça se passe sur une île avec des dinosaures. Franchement, un numéro très très sympa. La suite, ce sera dans Teen Titans, donc ça fait un petit diptyque ce mois-ci. Mais vraiment une bonne surprise et pour moi c'est un bail.
Sam.
On va rester chez DC mais du côté de Vertigo avec le American Vampire Lord of Nightmare, très 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 bon, signé par Scott Snyder et Dustin Weaver au dessin.
Alors, Dustin Nguyen.
Dustin Nguyen, ouais. Je les confonds toujours ces deux-là. Je devrais pas parce que alors là franchement, j'en ai pris mais plein les yeux niveau graphique, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Là, je me souvenais pas que Nguyen avait ce niveau-là.
Ah,
franchement, c'est même plus du dessin ce niveau-là, c'est quasiment plus du dessin en pastel, c'est superbe. Donc en fait, ça se situe cette fois-ci dans les années 50. On continue à suivre les personnages de Felicia Bloch et les vassaux de Vénus.
C'est quoi ce truc?
Et on a le retour, enfin l'arrivée d'un certain vampire qu'on se doutait bien qu'il finirait par arriver dans la série. Voilà.
Ok, donc c'est une mini en 5, hein, je crois.
Oui, en 5. Comme
Comment
la précédente.
T'as dit qu'elle s'appelait Felicia?
Non, Felicia Book.
Book?
Oui.
D'accord.
Comme un livre.
Après Frank Poore, c'est Book, quoi. Ok.
Ah je vais continuer, tu as dit un bail, hein.
Oui, un ultra bail.
Je vais continuer et pour moi ce sera ma dernière review d'ailleurs avec la bouse de la semaine hein, avec X versus numéro 3. Je me demande pourquoi je regarde encore ce genre de choses. Deux histoires, La Chose contre Colossus, scénarisé par Jeff Loeb avec au dessin Ed McGuinness et Dexter Vines à l'ancrage.
Oh, ça s'envoie du lourd. Hein.
Ça se tape dessus, hein. De toute façon, il n'y a pas de scénario, donc voilà.
Sans déconner, je m'attendais à un traité de philosophie, moi.
Non, mais je crois que le scénario, c'est le scénariste qui envoie son un post-it. Alors, c'est machin qui se bat contre machin. Au mois prochain.
À part la première page qui est très sympathique parce qu'il y a énormément de petites cases et puis bon, Jeff Loeb et Ed McGuinness se font plaisir en plaçant le Red Hulk. Normal. La deuxième histoire, c'est Black Widow contre Magic, scénarisé par Chris Yost avec Terry Dodson au dessin, Rachel Dodson à l'ancrage. Pareil, un peu plus inventif, un peu plus de dialogue, un peu plus scénarisé, hein, mine de rien, parce que
un peu plus de sang.
C'est Chris Yost, mais ça reste pas bon.
J'ai un mini coup de gueule en plus, c'est maintenant quand t'es pauvre, tu peux pas savoir ce qui est dit par les personnages quand ils parlent en russe. Avant, ils mettaient un astérisque et ils traduisaient. Maintenant, il faut avoir l'application justement réalité augmentée pour pouvoir savoir ce qu'ils disent.
Sans déconner.
C'est un peu nul, mais...
ouais. Sans déconner.
Ouais. Alors putain. Bon, l'application est gratuite, hein, l'application réalité augmentée.
Ouais, mais bon, il faut avoir un téléphone, un truc pour pouvoir le faire.
Non, tu peux le faire sur ton ordinateur, je crois.
Ouais, enfin bon, quand même.
Oui, mais c'est vrai que...
Je préfère un astérisque et lire...
Enfin, c'est vrai que c'est chiant, parce que Kingan a raison, quand t'es, je sais pas, dans ta chambre, et que t'as pas accès à Internet, ou t'es en vacances, ou je ne sais pas...
Oui, mais de toute façon, c'est ce que j'allais dire. Hein, c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues, mais il y a la moitié en russe.
Oh putain, voilà.
C'est un peu casse-couille. Bah, forcément, deux personnages russes qui se battent, hein, ils se parlent dans leur langue natale. C'est assez désagréable, moi ça m'a fait chier, j'ai pas été chercher la traduction sur la réalité augmentée parce que j'en ai un peu rien à branler. De toute façon c'était déjà pas très bon, donc voilà. Je vais pas aller me faire plus mal à perdre encore plus de temps à lire une plus grosse connerie. Voilà. Donc vous l'avez deviné, c'est un pass.
Et à préciser qu'on aura quand même le combat Hope contre Scarlet Witch dans l'un des prochains numéros.
J'en ai toujours rien à foutre.
Oui, non, mais je pense que ce sera de la merde, mais bon.
Oui, je te le dis déjà, ce sera de la merde.
Allez, King Ed et Sam, à vous, messieurs, de finir.
Alors, là, j'ai des petites reviews express aussi. Donc, je vais vous parler de The Ravagers numéro 2. Toujours avec Howard McKee au niveau de l'histoire. Pour les dialogues, il est également aidé de Tom DeFalco. Et au dessin, c'est Ian Churchill. Donc, la suite de cette petite équipe d'anciens... teenager traumatisé par justement The Culling, retrouve avec Fairchild qui essaye de les sauver. Elle a un peu de mal. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'organisation Nowhere qu'envoie de nouveaux ennemis pour essayer de les récupérer. Ça se laisse lire, c'est pas très original. Les dessins sont sympas. Il y a que la fin qui a l'air intéressante puisqu'on va nous réintroduire un personnage de l'univers DC qui est assez sympa. Donc, tu penses
que ça va pas faire long feu, quoi ?
Howard
McKee, hein. J'avais prévenu Howard McKee.
Howard McKee a fait des trucs très bons. Hein.
Non.
Pour moi, c'est un check-it parce que c'est quand même, ça se laisse lire, c'est assez agréable, mais voilà, c'est pas, ça va pas non plus être la meilleure série de la semaine, quoi.
Sam.
Fantastic Four 607, Jonathan Hickman au scénario, Giuseppe Camuncoli au dessin. Donc les quatre fantastiques. Ouais, Giuseppe. Les quatre fantastiques se rendent au Wakanda. Ils sont accueillis par comment il s'appelle? Ah oui, T'Challa et sa femme Storm. Et c'est à peu près tout ce que j'ai compris, parce que tout le reste de l'épisode j'ai rien capté.
Ah oui, donc ça veut dire que dans les pages d'AVX, dans les pages de Fantastic Four, il n'y a pas d'AVX, puisque
non, c'est pour ça que l'épisode est bien d'ailleurs.
Oui, parce que toi qui ne lis pas AVX, il faut savoir que Storm et Black Panther ne sont pas dans le même camp. Hein.
Ah ben là, ils s'entendent très bien. Hein. Sinon, ben, je sais pas, ils mélangent en fait le scénario, mélange un peu la mythologie égyptienne et l'histoire du Wakanda. J'ai rien compris.
Je rappellerai juste que Jonathan Hickman est un des 5 architectes et qu'il écrit cette merde hein, d'AVX. Voilà.
Il est juste pas cohérent avec... fort, hein, que les gens comprennent que tu parles bien d'AVX.
Non, mais il écrit AVX, il fait partie des 5 architectes qui écrivent AVX. Mmh. On a cité qu'il écrivait Fantastic Four, je pensais que c'était pas nécessaire de leur citer, mais voilà.
C'est juste
qu'il n'arrive pas à être cohérent avec lui-même, en fait. C'est ça, voilà. C'était juste la petite remarque.
Bon, mais ça reste très bon, mais c'est juste que j'ai rien capté. Voilà.
De Jonathan Hickman que tu captes pas en 2 semaines.
non mais secrète là, c'est normal que je capte rien parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire. Là, il y a eu d'histoire, mais c'est juste que je vois pas où ça va.
Nos amis de chez Comics Blog ont un avis différent de toi sur Secret.
Bon, bah, tant mieux pour eux, mais moi je capte pas.
moi je l'ai toujours pas lu le 2, j'ai pas eu le temps.
Vas-y, essaye, mais j'ai rien capté.
Ils aiment bien.
Oui, ils aiment beaucoup.
D'accord, puis on a un lecteur.
J'ai trouvé que c'était des gens détestables et j'avais pas envie de les suivre particulièrement.
On a un lecteur aussi qui a bien aimé, qui avait commenté sur le site.
Oui, Matt Murdock.
Bien aimé le. Ouais, c'est ça.
Matt Murdock, quoi. Le blog sans peur, quand même.
Southern Country numéro 4 avec Paul Cornell au scénario et Ryan Kelly au dessin. C'est une histoire qui traite des extraterrestres. C'est un petit mélange entre The West Wing et X-Files.
Série que j'aime beaucoup, que j'ai lu les 2 premiers numéros et que j'ai pas eu le temps de lire la suite, donc c'est bien que tu en parles.
C'est assez sympa, mais je trouve que c'est un petit peu lent en fait, l'histoire n'avance pas énormément. Là on voit toujours ils essayent de comprendre ce qui leur est arrivé lors de cette fameuse nuit où ils ont peut-être eu des sondes anales dans le cul, mais donc voilà.
D'où le mot sonde anale de cette fameuse nuit.
Mais oui, mais il faut savoir que les aliens dans la traversent bouche. L'univers uniquement pour ça. Hein. Nos rectums doivent vraiment être passionnants.
C'est amusant parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des choses assez originales, mais en fait ils jouent avec tous les poncifs de des extraterrestres.
Ils jouent avec tous les trous du cul possibles.
Voilà. Pour moi c'est la force de la série.
Steve, ça fait une heure, je vous promets qu'il essaye de dire quelque chose. Je pense qu'il est surpris à 5 fois.
Mais ça s'entendra sur le montage en fait. C'est que en live vous entendez moins bien, mais ça s'entendra sur le montage.
Bon, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est toujours assez intéressant. Je sais pas trop où ils veulent en venir, mais ça se laisse lire. C'est un bon petit check-it. Les dessins sont sympas, donc un check-it.
Le Ultimate Comics X-Men 13, avec l'arrivée de Brian Woods au scénario, Paco Mignolina au dessin, et c'est très bon. C'est centré sur Kitty Pryde. Alors, il faut replacer ça dans le contexte, c'est-à-dire que les Sentinelles ont pris le pouvoir dans plusieurs états du sud des États-Unis, ce qui fait que les États-Unis ont abandonné ces états-là. C'est tout simplement. Et Kitty Pryde décide en fait de dire qu'elle en a marre et elle va aller exploser les Sentinelles. J'ai trouvé ça très bon.
Ouais, moi je suis un peu plus mitigé parce que je trouve que c'est quand même encore toujours très très lent et on avait déjà eu 12 issues qui avaient été un peu longues jusqu'à une révélation finale à la fin du numéro 12 et j'aurais bien aimé qu'on reparte dessus. Mais on peut comprendre, comme c'est l'arrivée d'un nouveau scénariste, il plante un peu les bases d'une histoire qui, je pense, va être assez intéressante avec le retour des X-Men.
Juste une petite question. Le coup des Sentinelles qui ont pris le sud des États-Unis et que ils ont fait sécession, c'est une idée de Brian Wood ou ça avait déjà été signalé avant?
Non, ça fait partie des trucs que Spencer avait placé. Ouais. Et qui arrive en même temps que ce qui arrive dans Ultimate où Washington se fait exploser.
Les États-Unis, en fait.
Donc en gros, tout l'univers Ultimate est en train de se faire, de s'effondrer de tous les côtés.
Parce que j'ai cru que Brian Wood était encore en train de dénoncer un problème des États-Unis discrètement. Non, bon, c'est pas de son fait, c'est aussi de Spencer, d'accord.
Sachant que je crois que la se veut de réclamer son indépendance dans le truc. En fait.
Voilà, c'est ça. Et puis je rappelle que le président des États-Unis a été tué quand même. Donc,
voilà, oui. Washington est en ruine. Tout le sud-est asiatique est
sous contrôle. L'Allemagne n'existe plus. Asgard a été détruit.
C'est toute l'Europe ravagée. C'est vraiment l'univers ultimate qui s'effondre, en fait. C'est vraiment génial.
Voilà. Okay,
bye pour vous deux.
Ouais.
Pour moi,
oui.
Okay.
Et moi j'ai fini.
Bah moi juste une lecture pour la signaler, le X-Men Legacy de Christos Gage et le scénario de David Baldeon au dessin. Alors j'étais très réservé sur les épisodes précédents parce que c'était du AVX et que j'en avais rien à foutre. En plus c'était pas très bon. Alors là c'est toujours marqué AVX mais c'est vraiment dans le fond quoi. C'est-à-dire que t'as la première page dessus mais ça s'arrête là. Et en fait c'est Frenzy qui est balancé dans un pays d'Afrique. Parce que manifestement, puisque Cyclope maintenant a une partie du pouvoir du Phénix et s'est mis en tête de mettre fin au conflit dans le monde. C'est intéressant, oui, d'accord. Et donc elle est balancée là-dedans pour en fait gérer l'après. Et on voit un peu le passé de Frenzy. Franchement, c'est très très bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Je dis ça va être encore un épisode à la con. Ben non. Sans doute parce que AVX est dans le fond. C'est-à-dire que vraiment c'est évoqué, mais ça s'arrête là.
Parce que Cyclope aurait pas pu avoir cette idée avant d'avoir la Phoenix Force. Hein.
Voilà. J'ai l'impression que on va avoir le droit à Cyclope version GOG.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Voilà. Ouais. Super.
Ouais. Ok, mais c'est tout pour cette semaine. Alors, à signaler quand même que c'est là, il y a aussi la sortie du dernier Incorruptible, le numéro 30, qui clôt la série après qu'Irredeemable se soit arrêté il y a 2 semaines. Et pour ceux qui suivaient la série, qu'on attend toujours en français.
Oui, merci.
Au passage. C'est tout pour cette semaine, donc on se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 100 ultra spécial méga
en direct live.
Ouais. En du direct live.
En live. Alors, bon, pour nous, on a fait un petit test cette semaine. Tout s'est à peu près bien déroulé après juste 2 heures de trifouillage dans tous les sens. Donc, je vous explique un petit peu.
On peut pas garantir que ça remarchera.
Non, ça remarchera. Yes. Vous aurez le stream live en vidéo, mais il n'y aura pas de vidéo à voir. Hein, de toute façon, c'est parce que c'était la solution la plus simple et surtout non payante. Puisque je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour diffuser uniquement du son gratuitement. Donc ce sera sur justin.tv. On vous communiquera l'adresse, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout vous sera communiqué.
Sponsorisé par les saucissons et Justin alors, Bieber.
Oui, vous aurez une petite pub au départ, hein, mais ça c'est pas
et
bien.
Et Timberlake en fait. Aussi.
Arrêtez les blagues avec Justin, s'il vous plaît. Ou alors parlez de celle au moins de premier baiser, quoi. S'il vous plaît.
Non, Justin Gray. Et Jimmy Pamiotti?
Oui, bien sûr. Vous aurez aussi accès à un chat qui ne sera pas sur la même page. On vous mettra aussi l'adresse, tout simplement parce que le chat de Justin TV oblige à vous inscrire, et on n'a pas envie que vous soyez obligé de vous inscrire sur un site pour discuter avec nous, tout simplement. Donc, on vous mettra les liens. Vous pourrez aussi nous poser des questions directes sur Twitter. Vous réagir aussi en direct sur Facebook, si vous voulez, si vous n'avez pas accès à Twitter, si vous n'avez pas de compte Twitter, tout simplement. On vous communique ça très rapidement dans la semaine. Hein. Vous verrez des annonces sur Facebook. On fera aussi des annonces sur le site. J'espère que vous viendrez nombreux pour échanger avec nous. On commencera donc à 21h vendredi prochain et puis jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, hein, jusqu'à ce que
tombe suivre.
Mort de fatigue sur notre clavier. Sinon, vous pouvez bien sûr nous retrouver d'ici là sur Facebook, bien sûr sur Twitter aussi. Vous nous retrouvez sur le site avec tous les articles de tous nos chroniqueurs. Et puis vous pouvez nous envoyer des mails. L'adresse c'est podcast@comiccity.fr. Avant de conclure, hein, je vais me permettre un petit mot de la fin, une expression que j'ai entendue aujourd'hui qui m'a fait extrêmement rire. Tu as beau péter dans la dentelle, ça passe quand même à travers les trous. Voilà.
C'est très classe.
C'est une expression qui m'a fait beaucoup rire, j'avais envie de la partager avec vous. À la semaine prochaine, tout le monde.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, même jour, même heure.
Même chaîne.